très belle semaine qui se termine sur les ondes de Boulevard 102.1. Pas nécessairement une belle semaine au niveau de la météo, quoique ce matin, on a été un petit peu plus gâté que c'était prévu. Parce qu'il y a eu du soleil, Mathias Turcotte.
Ça se termine de la bonne manière. Ça n'a pas été exceptionnel, en tout cas.
Exactement.
Pas hier, mais là, présentement, on a quand même un beau soleil.
Ça vous a-tu permis de parler au maire de Québec dehors?
Ben oui, directement devant l'hôtel de ville aujourd'hui. Le maire qui était de retour de sa mission en Europe.
Ouais.
On a fait le tour de l'Europe, notamment l'Espagne et l'Italie. Puis il était de retour aujourd'hui après quand même une douzaine de jours. Là, il était parti du 6 au 18 juin.
C'est vrai que sa blonde est allée le rejoindre.
Hey, c'est une bonne question.
J'avais entendu parler de ça, vous n'avez pas parlé aujourd'hui.
Non, on n'en a pas parlé durant le point de presse. Je pourrais pas te confirmer l'information, mais en moi, j'avais pas entendu vent de ça.
Mais tu sais, moi, honnêtement, j'ai rien contre. Ça va le rejoindre puis payer ses dépenses. Puis que le maire fait ce qu'il a à faire.
Ben, ouais, c'est ça, mais en même temps. J'ai rien avec ça, mais si, tu sais, je veux dire, veux pas, t'es en voyage d'affaires.
Mm-hmm.
À quel point ça te distrait, à quel point ça te rend l'esprit ailleurs.
Moi, j'ai un de mes chums qui fait des voyages d'affaires, puis sa blonde, ses enfants, des fois, viennent le rejoindre. Ouais. Mais ses boss sont à l'aise avec ça. C'est qui les boss du maire Marchand?
C'est lui.
C'est nos auditeurs.
Ah, ben
c'est les
vrai.
Citoyens. 418-971-1021. On va y aller au pourcentage. Textez-moi oui ou non. Oui, ça vous dérange que Monique ait été rejoindre le maire Marchand en Espagne et en Italie. Non, ça vous dérange pas. C'est vous autres les juges. C'est les boss du maire. Paye les taxes.
C'est vrai. Les électeurs, c'est les boss des politiciens. Mais j'ai hâte de voir les réponses parce que autant que... J'ai quand même un malaise avec ça, tu vois, parce que...
Ben, je le comprends, ton malaise, parce que tu dis que t'es censé être là professionnellement, fait que t'es pas censé aller, puis là, je donne un exemple fictif, t'es pas censé aller à un show de musique avec ta blonde quand t'es là professionnellement. Je le comprends, ton malaise, je partage le même malaise.
Puis je suis certain que veux pas, même si tu veux être sur la tâche, que tu veux continuer à bien tout faire ce que t'as à faire, ça te distrait.
Mm-hmm.
Puis, ça apporte aussi une image un peu plus négative de ces missions-là. Tu sais, du côté de la ville, on essaye tout le temps de séparer le fait des missions, c'est pas des voyages, on travaille et tout. Là, ta blonde vient te rejoindre.
Hey, continuez de texter, parce qu'à date, Mathieu, c'est 50-50.
Ah ouais, ben...
Ah oui, à date, c'est... Puis je suis surpris, honnêtement, parce que je pensais que les gens seraient plus dans l'optique de « Ouais, non, sa blonde n'a pas d'affaires là », mais du tout, c'est 50-50. Moi, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ça me dérangeait pas. Mathias est en train d'amener des très bons arguments, soit dit en passant. Mais moi, ça me dérangeait pas parce que je me disais, j'ai confiance que le maire va faire la job qu'il a à faire.
Mais mettons que je te dis, Jeff, moi c'est parce que c'est le même. Je me pose la question, c'est quoi l'intérêt que quelqu'un a d'aller rejoindre son chum ou sa blonde à l'étranger si cette même personne-là est extrêmement occupée puis ils n'ont rien de temps de faire ensemble au final? Moi, c'est ça le questionnement que ça m'emmène. Mm-hmm. Si, mettons, ta blonde est à l'étranger puis elle dit « j'ai un horaire hyper chargé », tu vas-tu payer ton billet d'avion pour aller la rejoindre en sachant que son horaire est tellement chargé que vous n'allez pas pouvoir passer du temps ensemble?
Ben, il y en a qui vont en profiter pour aller visiter les villes.
Oui.
Tu sais, comme mon chum, moi, sa blonde en a profité avec les enfants, ils ont visité San Francisco.
Ils faisaient un tour.
C'est ça. Okay. Ils ont profité de ça. Il y a des bons points également qui rentrent. Là. Ah, ça me dérange parce qu'elle va profiter de l'hébergement payé par les contribuables. Ah, bon point. J'aime ça. J'ai aucun problème avec ça. À un moment donné, il a le droit à sa vie privée, même s'il est en voyage d'affaires. Fait que on est vraiment dans le 50-50, Mathias.
Oui,
on n'est pas capable de décider.
Puis en même temps, tu sais, je comprends le point de dire c'est pas la fin du monde. Moi, c'est vraiment ça le point. Moi, si... Le maire a été capable d'accomplir tout ce qu'il devait accomplir.
Exactement.
De la même manière qu'il devait l'accomplir. J'ai pas de problème avec ça.
En plein ça.
Mais c'est de savoir, est-ce que ça peut devenir une source de distraction? Est-ce que ça peut changer que d'un coup, ça passe d'une mission comme qu'on nous pousse du côté de David, d'un coup, ça peut-être
c'est
un peu plus
quoi?
Une tendance.
On est rendu dans plus de gens là, avec qui continuent à texter. Vous êtes vraiment beaucoup à texter. On est rendu à plus de gens. Je te dirais, on est rendu à peu près 60% des gens qui disent « ça me dérange pas pantoute ». S'il fait sa job, de toute façon, s'il était à Québec, il ne travaillerait pas 24 heures sur 24. Donc, qu'il suspecte sa blonde en Espagne ou à Québec, ça nous dérange pas. Hey, le monde s'arrange de mon côté. Moi qui pensais que le monde allait dire « voyons, Jeff, t'es vendu, maire marchand ». On le sait bien, toi, tu parles juste contre Stéphane Lachance. Non, ça, c'est Stéphane Lachance qui me texte pour dire ça. OK, je m'excuse. Je me trompais. Oh, c'est arrivé, guys. Stéphane Lachance m'a texté parce que je l'ai traité de bonhomme 7 heures du tramway.
Ben écoute, puis les auditeurs ont les auditeurs ont des bons points là, sur le fait que effectivement, même si le maire est à l'étranger, il n'y a pas d'obligation de travailler 24 heures sur 24. Mais quand un élu part en mission à l'international, ouais, j'ai comme l'impression que veut pas, on veut que toutes les minutes de son horaire le plus possible soient rentabilisées dans cette mission à l'étranger-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là, c'est que en ayant des proches avec toi, au lieu de te concentrer à 100% sur ça, ben, t'as des sources de distraction.
Je comprends ton point. Ton point est excellent, honnêtement. Puis moi, vois-tu, je me dis, ben, j'ai assez confiance en lui pour qu'il fasse la job. Puis après ça, il fera bien ce qu'il veut si sa blonde vient le rejoindre. Mais tu sais, je pense que nos deux opinions s'équivalent, là. Tu sais, regarde Hugo qui nous dit, hey, quand je donnais des shows partout sur la planète, ma blonde venait me rejoindre dans certains endroits plus exotiques. Hawaii, Hong Kong, Banff. Hey, Hugo, t'étais dans quel Ben, man? Ça m'a jamais empêché de faire ma job et de donner un bon show. D'un autre côté, Johnny nous dit « Hey, wow, minute, ça va faire le profiteur, la profiteuse, t'as pas d'affaire là. » Et pour de vrai, moi, j'ai l'opinion que s'il fait sa job, ça me dérange pas, mais je comprends très bien les gens qui disent « Ah, pas d'affaire là. » Je me chicanerai pas avec personne qui a l'opinion contraire de moi.
Je trouve que les deux côtés sont bons. Moi, je suis quand même ambigu. Je suis pas au point de dire « Ah, c'est un profiteur. » Non, vraiment pas. Puis Christian qui m'écrit, il travaille pas 24 heures sur 24, les gens ailleurs, je suis au courant de ça. Mais veut pas, puis je le répète, pour moi, quand un élu utilise l'argent des contribuables pour aller à l'étranger, dans ma tête, il faut que le plus possible, chaque minute soit rentabilisée. Pas de là à travailler 24 heures sur 24. Mais du moins d'en faire le plus possible.
En effet. Jonathan qui dit « Va falloir se pencher, par contre, sur la pertinence des voyages d'affaires du maire. » Ça, je suis très, très, très d'accord parce que je leur mets en question celle-là, cette mission-là, pour des raisons qu'on avait le rapport du VG. Puis là, tu me diras si j'en oublie, Mathias, le dernier conseil de ville, puis le sommet sur les infrastructures municipales.
Cette semaine, c'est exactement tout ce qui s'est passé en termes d'actualité municipale. Ça brassait beaucoup, puis ça aurait été le fun d'avoir le maire là pour le dernier conseil. Tu sais, le conseil de ville, il savait d'avance. Manquer le dernier conseil de ville quand il y en avait déjà manqué beaucoup en partant, je trouve ça un peu problématique. Là, en plus, avec tout ce qui s'est ajouté cette semaine, on revient au point de beaucoup de voyages. On parlait de la même chose avec le voyage en Alberta dernièrement. Faire autant de missions à l'étranger au cours des derniers mois, c'était peut-être pas la meilleure idée pour le maire Marchand.
En effet, parce qu'on est dans une situation à Québec où il y a beaucoup d'urgences pour la ville. Puis si je fais le comparatif avec l'entrevue qu'on a eue mercredi avec le maire Stephen Blaney, qui nous a dit « Moi, je m'occupe de l'asphalte. » Puis là, les gens ont dit « Hey, on aime donc bien ça, un maire comme ça. » Donc, tu sais, maintenant que les missions sont terminées, va falloir vraiment... mais vraiment que le maire Marchand se concentre sur ce qui se passe. On est en attente. Joël Lightbound va venir s'installer en studio avec nous dans quelques instants. Mais avant ça, on va aller rejoindre pour un petit caucus à vitesse grand V avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, comment vas-tu, ma chère?
Ça va bien, merci.
Hey, ça va super bien. Emmanuel, je vais prendre un petit 5-6 minutes avec toi aujourd'hui. Je veux juste t'entendre concernant Christine Fréchette, la CAQ, la semaine difficile de la CAQ. Mais là, Christine Fréchette qui dit « Hey, je pourrais me présenter dans Trois-Rivières. » Je suis surpris de ça. Toi, ça t'a-tu surpris ce matin?
Oui, ça a surpris un peu tout le monde, d'autant plus qu'elle n'a pas fermé la porte.
Ben, c'est ça, exactement.
En disant « Attendez lundi, on a une belle annonce, etc. » Écoute, il y a un aveu de faiblesse là-dedans. Si t'es sûr de gagner, puis t'es sûr que ça va bien, t'as pas peur d'aller dans Sanguinette.
En effet.
Qui est en banlieue de Montréal, qui est son comté actuel, mais là, le PQ va présenter l'ancien bloquiste à l'intérieur.
C'est vrai.
Qui est l'ancien député provincial de Sanguinette. Donc, quand tu cherches une autre circonscription, ben, il y a comme un aveu que t'es pas sûr de gagner. Dans les faits, Sanguinette, elle ne peut le gagner que si elle gagne l'élection. Okay, si tu veux comme
en effet.
Des baromètres, là, c'est un peu ça. À l'inverse, le problème qu'elle a en la Mauricie est beaucoup plus fluide, si on veut, je pense. Donc, ce n'est pas exclu qu'on soit capable de sauver des sièges en Mauricie pour la CAQ. Et elle vient de perdre deux grosses pointures, hein? Jean Boulet.
Oui.
Et Sonia Lebel dans le comté voisin de Champlain. Donc, est-ce que l'idée de ramener Mme Fréchette à Trois-Rivières, là où elle est née, bon, ça fait un lien historique, ça permet d'espérer faire un effet tache d'huile dans une zone où c'est plus payant et un terreau plus fertile d'avoir la première ministre comme candidate là? Ça semble être le calcul, mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on a beaucoup de... Ça roule carré.
Ben oui.
Jusqu'à la fin de la session parlementaire, on avait une opération au bureau de la première ministre qui était huilée, disciplinée, cordée. On n'en échappait pas. Il y a eu des moments difficiles, mais auxquels tu es confronté, c'est la vie politique. Mais alors que depuis la semaine, on est comme... ils se font énormément bousculer à droite et à gauche, là.
Vraiment?
Le départ de Jean Boulet qu'on n'avait pas vu venir, le départ de Mathieu Lacombe qu'on a vu venir, là, la colère, là, on fait flotter le ballon d'essai pour que tout le monde rentre dans le rang, qu'on n'exclut pas de faire un remaniement. Ça fait l'improvisation, tu sais?
Ah, clairement!
Une équipe qui, soudainement, n'a plus totalement les deux mains sur le volant, puis on se demande si le frein à bras fonctionne tout le temps, là.
Puis Christian Dubé, au début de la semaine, qui en a rajouté une couche en santé, là, c'est Éric Kerr aujourd'hui.
Ouais.
Là, Éric Kerr aujourd'hui qui dit là. Geneviève Guilbeault, c'est de sa faute si on n'a pas de troisième lien, c'est de la faute à Régis Labeaume. Gilles Bélanger a raison pour les dossiers informatiques. Fait que bref, ça fait une fin de session très difficile pour Mme Fréchette.
Ça fait une fin de session difficile, puis ça fait une première ministre qui a l'air d'être pas totalement en contrôle de son parti.
En effet.
Donc, est-ce que l'annonce de la candidature de demain avec Manuela Goya d'Ambron-Missisquoi, qui est la vice-présidente de Tourisme Montréal, donc qui était une belle candidature, là. Tu sais, ça, c'est pas un poteau, là. Candidature de prestige, quelqu'un qui est ministrable, etc. Est-ce que ça va permettre de tourner la page sur une autre semaine difficile? Je pense que c'est ce qu'on espère du côté de l'entourage de Mme Fréchette.
En effet. En même temps, je comprends, c'est une personne avec un CV vraiment impressionnant. Mais pour le commun des mortels, Emmanuel, là, es-tu la première candidature à laquelle les gens s'attendaient, compte tenu qu'on est en retard?
Je pense que ce que ça prenait, c'est une candidature sérieuse et crédible. À quelle candidature on s'attend à un Messie, Jésus-Christ, à un moment donné, je veux dire, ça dépend, on place la barre tellement haute. Le problème, elle a perdu deux gros ministres cette semaine. Fallait que la candidature annoncée demain soit quelqu'un de sérieux, de ministrable, qui a la même trempe potentielle, qui est sur un pied d'égalité avec ces ministres-là qui ont quitté, là, tu sais. Et ça, je pense qu'à ce chapitre-là, la candidature de Mme Goya va venir. Puis là, il va falloir voir, là, il semble qu'on a toute une séquence là, de nouvelles candidatures de prévues. Est-ce que celles-ci, finalement, vont donner l'image d'un nouvel éventuel conseil des ministres, un peu comme ce qu'essaie de faire le Parti québécois et le Parti libéral en ce moment? Je pense que c'est ce qu'on va vraiment surveiller dans les prochaines semaines.
Un petit mot en terminant, Emmanuel. Hier, j'ai eu le médecin Karim Elayoubi en entrevue. Il se présente dans Chauveau pour le Parti conservateur du Québec. Chauveau, le Parti conservateur du Québec qui fait énormément de parachutage, à commencer par lui-même, Éric Duhaime dans Bellechasse. On a Maïté Blanchette-Vézina dans La Pelletrie. T'en penses quoi de ce parachutage-là? Est-ce que c'était essentiel pour le PCQ parce que sinon, ils ne seront pas représentés à l'Assemblée nationale?
Bien, c'est le défi d'un parti qui est extrêmement régional en termes de force.
Ouais, hein?
Est-ce que tu gaspilles tes meilleures candidatures dans la ville où ils viennent, où ils n'ont aucune chance de se faire élire? C'est pour ça que c'est vieux comme le monde, le parachutage, tu sais. Je pense qu'à l'inverse, on a des candidatures plus locales qui sont fortes quand même en Beauce, par exemple. Si tu n'as que des parachutés, tu as un problème. Mais d'avoir quelques parachutages dans le terreau fertile où tu as des chances d'être élu, tu n'as pas trop de choix dans les faits parce que tu veux mettre de l'avant pendant la campagne les gens qui ont des chances d'être élus. C'est tes candidatures les plus fortes. que tu veux valoriser, que tu veux mettre à l'avant-plan. Donc, je pense que ça fait un peu partie des compromis nécessaires, là, je te dirais, pour le Parti conservateur, qui a quand même placé la barre très haute. Là.
À 12! Dit,
notre but, c'est de faire élire un député. Il dit, notre but, c'est d'avoir 12 députés pour avoir le statut de parti officiel et d'être reconnu à l'Assemblée nationale. Là, il vient vraiment de faire monter les enchères. Là.
Ça va prendre des débats plus sérieux que les boissons énergisantes si on va arriver à 12. Bon, c'est mon opinion.
Oui, mais tu vois, il a mené la bataille sur le code du bâtiment.
Ouais.
On en a moins parlé puis c'était moins
c'est
sexy.
Vrai.
Mais dans les faits, ça a amené Mme Fréchette à reculer, tu sais. Donc, lui, il est capable d'arriver en campagne électorale et de dire, regardez, j'avais une seule députée à l'Assemblée nationale, puis en fin de session, on a réussi à avoir un impact. Ça aussi, je pense que c'est pertinent. C'est sur des enjeux que lui trouve porteur au regard de sa base. Mais je pense que, c'est ça, on va voir quels seront l'ensemble de leurs propositions, là. Mais c'est ce qui rend, on s'en est déjà parlé, je pense, la campagne imprévisible, c'est que
ben
les chiffres nationaux ne veulent pas dire grand-chose quand les forces des uns et des autres sont régionalement aussi concentrées. Et c'est à cause de ça aussi que de placer tes joueurs forts dans des comtés prenables compte, parce que on n'est pas dans un contexte à la lumière du désenchantement de l'électorat où tu peux compter sur un effet de vague en ce moment.
T'as entièrement raison. Emmanuel Latraverse, merci beaucoup. Je te souhaite un excellent week-end. Salut, bon week-end, bonne Saint-Jean.
On en jase jusqu'à...
Mathias, il y avait de la circulation hier. Puis là, ben, à l'approche du long congé, avant qu'on parle avec Joël Lightbound, député de... C'est député de Louis-Hébert. Louis-Hébert. J'ai toujours peur de faire une erreur. Donc, député de Louis-Hébert. Pour le Parti libéral du Canada, qu'est-ce qui se passe dans la circulation à l'approche de ce long congé de la Saint-Jean-Baptiste?
Bien, hier, c'était à mauvaise température qui faisait qu'on avait de la circulation tôt. Cette fois-ci, j'ai bien l'impression, comme tu l'as dit, Jeff, c'est la veille du long week-end sur la 20 direction ouest. C'est encore une fois très difficile en raison des travaux entre Taniata et président Kennedy. C'est au rouge en ce moment. Direction est au ralenti également à hauteur de Taniata. Sur la rive nord, capitale direction est, c'est présentement entre Pierre-Bertrand et Neuvial que c'est un peu plus difficile. En direction ouest, on parle surtout à hauteur de Laurentienne jusqu'à Henri Bourassa. En parlant de Laurentienne, en direction sud, c'est difficile pour accéder à Capitale. Et je termine avec Robert Bourassa, direction nord à hauteur de boulevard Le Bourgneuf, que c'est au ralenti. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Merci beaucoup, Mathias. On a le plaisir d'accueillir Joël Lightbound avec nous en studio. Il est député de Louis-Hébert. Il est ministre de la Transformation gouvernementale et lieutenant du Québec pour le Parti libéral du Canada. Monsieur Lightbound, ça va bien?
Ça va très bien.
Cool. À Québec pour l'été?
Oui, je suis rentré hier soir, la chambre a ajourné hier après-midi, puis ouais, j'irai pas trop loin cet été.
Donc, la conjointe est contente, on va être là pour s'occuper des enfants.
Tout le monde est content, c'est la fête de mon fils aujourd'hui,
ah,
c'est
oui?
De retour pour la fête.
Quel âge?
2 ans.
2 ans?
Ouais.
Ah, c'est donc bien cool, mais hein, ça va vite, certain. Là, ça embarque dans le Terrible 2, par exemple. On va dire non?
On va voir.
Oui, il y a le caractère de qui, sa mère ou son père?
Il y a son caractère.
Il y a son caractère ouais. À lui, entre
ouais.
Les deux?
Un peu entre les deux.
Ouais. Ouais, OK, parfait. Moi, ils ont 18 et 16. Puis mon 18 ans, vraiment mon tempérament. Fait que des fois, il faut que je me parle intérieurement. Okay. Tu sais, je me dis, ouais, c'est ça, j'ai mes parents, moi aussi.
Ouais, c'est vrai qu'accepte.
Puis là, je me dis, bon, mais quand mes parents me disaient ça, ça me fâchait. Fait que je vais essayer de dire différent.
Ouais, je pense qu'à deux, tu sais, on le découvre encore, là, son caractère.
Victoire de 6-0 du Canada hier en soccer.
Ouais, c'est immense. Première victoire.
Première victoire de l'histoire en Coupe du Monde. Bon, je lisais, c'est des investissements d'à peu près 1 milliard de dollars du gouvernement pour présenter la Coupe du Monde. Mais quand je vois la féerie, le patriotisme hier, mais du coup, donc, ça va à peine pour nos infrastructures sportives.
Et il y a les infrastructures qui restent aussi par la suite.
Exactement.
Il y a les retombées aussi d'un point de vue du marketing. Là, je me semble, les chiffres que j'avais vus, c'est 4 milliards de personnes qui écoutent la Coupe du Monde. C'est qu'à un moment donné, tu fais parler du Canada partout à travers le monde. Là.
Vancouver était belle hier.
Oui,
j'ai même mon chandail Vancouver.
C'est vrai. Je voyais sur les plateaux de télé, là, les journalistes, ils ont les montagnes derrière. C'est magnifique.
Non, c'est ça. Alors, vraiment, nous, on est des tripeux, moi et Mathias, de sport. Fait qu'on était tripeux de la Coupe du Monde à l'heure actuelle. Puis honnêtement, Je sais que le soccer a déjà eu mauvaise presse au Québec. Hein? Les gens se tirent à terre et il n'y a jamais de but. Là. Mais il y a 200 000 jeunes au Québec qui jouent au soccer intéressés.
Est-ce que c'est le sport le plus pratiqué au Québec?
C'est le sport le plus pratiqué au Québec à l'heure actuelle.
Moi, c'était mon sport quand j'étais jeune. C'est un sport aussi qui est facile d'accès.
Oui,
pas,
vraiment.
Ça ne coûte pas cher. Non, c'est un beau sport.
C'est le double du hockey, le nombre d'inscriptions.
Quand même.
C'est fou. Okay. Oui, c'est vraiment, vraiment fou. Rentrons dans les dossiers politiques. J'ai été surpris, moi, du premier ministre Carney qui a dit « Hey, c'est positif l'entente entre l'Iran et les États-Unis. » Vous en pensez quoi, vous?
C'est que les États-Unis et l'Iran se soient entendus, c'est très positif. Mm-hmm. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, il faut, faut que ce conflit-là prenne fin. Il faut que le détroit d'Ormuz soit libéré, que le commerce puisse passer. Donc, pour moi, je vois mal comment on peut prétendre que c'est pas positif.
Mais cette guerre-là était-tu nécessaire? Parce que tout le détroit est ouvert avant le 28 février.
Je vais m'en remettre... Je vois pas tant d'intérêt à commenter ce genre d'enjeu-là, dans le sens où on a peu de contrôle. Mm-hmm. C'est quelque chose que le premier ministre dit souvent, surtout dans le monde qui change à la vitesse à laquelle ça avance avec l'invasion de l'Ukraine, la guerre en Iran, puis les tarifs, la guerre tarifaire, la montée du protectionnisme. Il y a peu de choses qu'on contrôle à l'étranger, mais il y a des choses qu'on contrôle d'un point de vue domestique, puis je préfère me concentrer là-dessus.
Okay.
Puis ça, je peux vous en donner plein d'exemples, mais par exemple, unir notre économie, développer nos ressources, le faire avec intelligence, comme on propose de le faire, entre autres, avec notre projet de loi pour accélérer les grands projets au pays. Que ce soit se doter d'un TGV Québec-Toronto, comme on est en train de le faire avec
Parlons-en du TGV, Paul Saint-Pierre-Plamondon. Quelle mouche l'a piqué, selon vous, pour dire on n'en veut pas de TGV, c'est le train national?
Oui, honnêtement, je me l'explique mal. Là, puis j'aime pas trop commenter la politique provinciale, mais le Bloc a la même position à Ottawa, essentiellement.
Parlons du Bloc. Parlons du Bloc,
mais je vais reprendre les mots d'un ami que je suis, là, que je salue, Pierre-Luc Brisson, qui est un intellectuel souverainiste, je dirais, qui disait « C'en est désolant de bêtises de voir le Bloc québécois, le Parti québécois par extension, se refuser un projet qu'on demande depuis 30 ans avec l'un de nos plus gros partenaires économiques. Certainement au Canada, l'Ontario, c'est notre plus gros partenaire. Comme si, advenant que le Québec soit indépendant, il n'y aurait plus d'échanges avec l'Ontario. » Comme s'il n'y avait plus de besoin de mobilité. Moi, je veux dire, on en parlait, je n'étais même pas encore né d'un TGV. Ça aurait dû être fait il y a longtemps. C'est vrai que de vouloir garder le Québec en arrière sur un projet comme ça, je trouve ça absurde. D'autant plus que 40 % de la population du pays habite dans le corridor. C'est 31 milliards de retombées économiques pendant la construction, 51 000 emplois créés. Puis tu regardes en Europe, ils sont capables de se doter d'infrastructures comme ça, je pense qu'on est capable de faire ici au pays. Il y a des gains de productivité aussi immenses à aller chercher.
Le coût de réalisation va être plus proche de 100 milliards ou de 200?
Il est trop tôt pour dire, mais moi, j'ai rien vu qui pointe vers 200 milliards. Okay. Ce n'est pas du tout dans le
plus
range.
Vers 100,
mais
ça veut dire?
En ce moment, Alto est encore en train de faire ses devoirs à ce chapitre-là. C'est qu'on aura une meilleure idée.
Mais une fois qu'on va avoir une meilleure idée, si ça se rapproche plus du 200 milliards, est-ce qu'on va de l'avant quand même?
Bien, rendu là, pour moi, c'est spéculer, là, parce que c'est pas du tout... Quand tu regardes les comparaisons internationales, combien il en coûte pour, mettons, un kilomètre de TGV, on n'est pas là, là. Ce chiffre-là, en fait, j'ai aucune idée d'où il sort.
Ouais. En comparaison internationale, ça veut dire
que ça nous
donnerait
quoi? Un député du Bloc qui a sorti ça de son chapeau, là, mais beaucoup plus dans le range de 60 à 90 qui a été avancé par Alto. Là.
OK. Fait qu'on est plus dans ce range au niveau international.
Puis je vais y aller encore un peu dans les spéculations, okay, si vous me permettez.
Les politiciens adorent ça.
Si le Parti québécois s'y oppose, présentement, il mène dans les sondages. Si jamais le Parti québécois arrive au pouvoir puis dit « Non, nous autres, on n'en veut pas de TGV », est-ce que ça met automatiquement le projet à l'eau?
Non. Non, et c'est un projet entièrement fédéral, de la même manière que...
Donc, vous pourriez le faire sans avoir... Vous pourriez faire un TGV Toronto-Québec sans avoir l'accord du gouvernement provincial.
Ben, écoutez, je ne vais pas spéculer là, sur quelle sera la position d'un futur gouvernement du Québec alors qu'on n'a pas encore eu l'élection. Là.
Sans savoir la position, est-ce que vous pouvez faire le projet sans l'accord du gouvernement
provincial? Ce que
je sais,
c'est qu'il serait profondément regrettable. Et je pense que la population, quand je regarde les chiffres, sont largement derrière ce projet-là, qui est un bon projet, qui est un bon projet pour le Québec. Et ça, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de parti. Et je pense que j'espère que quel que soit le prochain gouvernement, puis on ne sait pas qui formera le gouvernement au Québec, je pense que tout le monde, personne, tout est un peu à jouer là, à l'automne. Donc, je ne vais pas spéculer sur la future position d'un gouvernement du Québec, mais pour nous, c'est un projet que le gouvernement du Canada mène. C'est une priorité pour nous. La construction commence en 2029.
2029, début de la construction. On va savoir les coûts exacts, quoi, 2028?
Oui, probablement.
Probablement dans ces eaux-là.
Le tracé à l'automne.
Parlant d'un autre projet de transport qui fait beaucoup parler ici dans la région de Québec, c'est le tramway. Et là, il faut que je pose la question que tous les auditeurs se posent. Est-ce qu'on a donné un montant ou on a donné un pourcentage du côté du gouvernement fédéral pour le tramway?
Okay. D'abord, on a donné une enveloppe à Québec. Pour le transport en commun, c'est autour de 6 milliards.
OK. Dans l'enveloppe de 10 milliards.
Exact.
Il y a 1 milliard qu'il faut pour les infrastructures en eau des municipalités.
Oui, il y a 1 milliard pour les infrastructures en santé. Mm-hmm. Puis il y a à peu près 6 milliards plus pour le transport collectif. Là-dessus, Québec peut prioriser ses projets. Je suis très heureux qu'ils aient priorisé le tramway à la hauteur de 1,3 milliard.
Oui.
Ce qui amène, dans le fond, l'enveloppe du gouvernement fédéral dans le projet à 2,75. Ce qui est 40 % des coûts admissibles. Donc c'est
du coût de 7,6 milliards.
Ouais, donc, exactement.
Parfait.
Donc, si jamais le projet a des dépassements de coûts, vous, votre montant reste fixe au total, pour l'instant, 2,75 milliards.
Notre montant reste fixe, à moins que Québec décide de l'augmenter à même ses enveloppes.
Est-ce qu'il va y avoir d'autres enveloppes disponibles d'ici 2033, la mise en place du tramway, que Québec pourrait vous faire des demandes?
Non, là, c'est ce qu'on s'est entendu, c'est pour les 10 prochaines années. Là, le 10 milliards en infrastructure, dont le transport collectif. Donc, moi, j'en vois pas. Là.
Parfait.
Mais après, à même ces sommes-là, Québec pourrait décider.
Fait que ça veut dire que Québec doit vraiment faire en sorte que le tramway coûte 7,6 milliards pour avoir 40 % de financement qui vient du fédéral.
Oui.
Parfait. Faut que la responsabilité leur incombe.
Oui, exact.
Merci beaucoup pour votre transparence et votre franchise. Hey, autre projet de la région de la Capitale-Nationale, le troisième lien, là, il va avoir un appel d'intérêt international. Admettons que Christine Fréchette réussit à vous arriver avec de quoi de bon, là. On fait quoi au gouvernement fédéral?
OK, mais là, quand, là?
Ben là, c'est là l'appel international. On est tous énervés.
Tant mieux que le projet, qu'on ait plus d'informations. Moi, c'est quelque chose que je déplore. On en a parlé à ce micro à maintes reprises. Là, je pense qu'il n'y a pas une entrevue depuis pas loin de... Ça fait 10 ans que je suis en politique, mais j'ai depuis 8 ans là, qu'on parle du troisième lien.
Ben, je le sais, mais il n'y a pas une entrevue. Les auditeurs me parlent du tramway puis du troisième lien. Si je ne pose pas de questions sur le troisième lien, les auditeurs vont dire t'as pas fait ta job, Jeff Fortin.
Ben, à ce chapitre-là, ce que je trouve positif dans ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est qu'on va avoir plus d'informations. On aura peut-être une meilleure idée du coût. Le tracé, moi, je l'ai vu changer au gré des saisons. Le projet a été ressuscité, torpillé. Donc, maintenant, bon, quand on aura de l'information, on pourra se positionner. Pour l'instant, c'est encore très embryonnaire comme projet, malgré que ça fasse 8 ans qu'on en parle.
Le fédéral, as-tu dans les plans de financer des infrastructures comme des ponts ailleurs au Canada?
Pour l'instant, je vois pas de quel fonds, mais si un projet est monté et bien fixé qu'il y a une demande, on l'étudiera en temps et lieu.
Donc, il peut avoir une ouverture si le projet est bon?
Si projet, il y a.
Parfait.
Pour l'instant, il n'y en a pas tant que ça de projet. Là.
Excellent. Puis là, dans le reste du Canada, il n'y a pas personne qui doit présenter un projet de pont que vous avez dit. Hey, là,
je veux pas, tu sais, je suis pas le ministre des infrastructures. Ouais. Je sais pas. Il y a des projets quand même d'infrastructures qui sont proposés. Mais ce type de pont-là, pour l'instant, il n'y a pas de demande. C'est que je veux pas. On me demande beaucoup de spéculer sur des scénarios hypothétiques. Quand il y aura une demande, on verra.
Parfait.
Je suis encouragé par le fait qu'on aura plus d'informations.
Excellent. Filière batterie, vous en retirez quoi de cette expérience-là? Parce que, veux pas, on en a beaucoup parlé au Québec parce qu'on a dépensé des millions de dollars. Au fédéral, on n'a pas dépensé d'argent parce qu'on attend de payer sur facture. Mais il n'empêche que François-Philippe Champagne était à toutes les conférences de presse pour vanter la filière batterie.
Oui, mais je pense qu'il faut donner à François-Philippe Champagne beaucoup de mérite d'avoir négocié justement une participation fédérale qui était conditionnelle à la production et à la vente.
Oui, il a quand même vendu au gouvernement du Québec, par exemple. Fait que,
après, le gouvernement du Québec est le maître de sa destinée, là, mais je trouve que d'un point de vue de la responsabilité des deniers publics, l'approche était la bonne du point de vue du gouvernement fédéral.
Oui, sauf qu'on en retire quoi du fait d'avoir voulu mettre beaucoup d'œufs dans ce panier-là, parce qu'il était quand même aux conférences de presse, François-Philippe Champagne, puis il vantait quand même le développement de la filière batterie.
Je pense que ce que j'en retiens, c'est que oui, ce que j'en retiens de ma perspective, il faut être extrêmement prudent avec les investissements que le gouvernement fait. C'est pas toujours. Faut voir jusqu'à quel point est-ce que c'est le rôle du gouvernement de déterminer qui sont les champions
J'aime ça comme réponse.
Le marché. Puis je pense qu'il y a une leçon là-dedans, certainement. Sauf que, d'un point de vue de la gestion des finances publiques, l'approche de M. Champagne était la bonne.
Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Paiement sur facture,
puis
je suis très,
ça
très,
peut
très
pas,
d'accord.
On peut pas collectiviser les risques puis privatiser les profits. Mm-hmm. Il faut que le risque soit assumé par le partenaire privé.
Ouais. Hey, je termine cette entrevue-là et merci, Joël Lightbound. On parle avec Joël Lightbound, ministre de Transformation gouvernementale et lieutenant du Québec pour le Parti libéral du Canada. Je vais vous poser une question facile puis deux cols. Ça a-tu l'allure? Je vous demande vos joueurs étoiles. C'est qui le joueur étoile de la dernière session parlementaire chez le PLC?
Ah, c'est facile. Pour moi, c'est Mark Carney.
C'est Mark Carney.
Ouais.
D'ailleurs, parce que... j'ai été très étonné des statistiques diversification d'économie. Félicitations. C'est 0,15% de différence, ce qu'on a perdu vers les États-Unis puis ce qu'on a gagné au reste du monde. Je m'attendais pas à un bon résultat comme ça dans la première année.
Puis, je veux dire, il n'y a pas une économie qui est plus dépendante des Américains que la nôtre. Mm-hmm. Donc, avec l'incertitude qui est infusée par les tarifs, qui est, c'est le Canada qui était le plus à risque, si on veut, mais les exportations à l'extérieur des États-Unis ont augmenté de près de 40% d'une année à l'autre.
Ouais.
C'est que pour moi, c'est sûr que M. Carney, dans la dernière année, parce qu'on arrive à un an du gouvernement, un an de son leadership comme premier ministre en mai dernier, je vois qu'on a réaligné l'économie canadienne tant vers d'autres marchés que aussi dans le développement de nos ressources. Un deal de 40 milliards sur le gaz naturel liquéfié avec l'Allemagne, on se rapproche beaucoup de l'Union européenne. Pour moi, c'est très positif. On atteint notre 2% d'investissement du PIB en défense. Ça, c'est des contrats immenses, que ce soit pour Bombardier avec le Global Eye, que ce soit avec CAE, des entreprises au Québec. Je vois 150 avions qui ont été commandés à Airbus. C'est la plus grosse commande dans le secteur de l'histoire. Mais ça, c'est pas... Les gens parlent de Mark Carney qui voyage à travers le monde. Mais quand il voyage, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Il va chercher des deals pour le pays. Il va chercher des investissements. On a le plus d'investissements directs étrangers des pays du G7 et de loin. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui arrive au Canada de part et d'autre. Puis après, quand je regarde, mettons, pour la région de Québec, moi, je vois qu'un projet de développement économique qui a beaucoup de valeur, beaucoup de mérite, puis qui est demandé à Québec depuis un moment, c'est la certification du port de Québec
comme
conteneur international. Moi, c'est un projet que je porte comme ministre depuis que j'ai l'honneur d'avoir ce titre-là. Mais avec M. Carney, ça a débouché plutôt rapidement. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Je regarde le financement du gouvernement fédéral dans le tramway, 40%, c'est fait. On avait l'Institut national d'optique ici à Québec qui cherchait du financement. On les a financés. C'est bon, c'est des retombées économiques immenses. Puis maintenant, Chantier des Vies, il y a beaucoup de travail qui se fait aussi puis qui va continuer de se faire.
On a des pubs sur nos ondes parce qu'on cherche du monde à Chantier des Vies. Ça fait longtemps qu'on a eu ça.
Puis c'est pas... c'est loin d'être terminé, là.
Non, en effet. Ouais. J'avais assisté à la conférence de presse. Maintenant, les deux cols. Bon, joueur étoile.
J'espérais couler le temps.
Je vous laisse pas partir avant que vous me dites. Là, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi longuement que le bilan du Parti libéral du Canada. Mais le joueur étoile pour le PCQ puis le Bloc québécois?
Pour le PCC?
Oui, pour le PCC, excusez-moi. Oui, je me suis trompé.
OK. Je dois dire que un député que j'ai trouvé, qui est nouveau, que je trouve efficace, puis là, je ne veux pas lui lancer trop de fleurs puis qu'il se fasse une grosse tête, mais dans ses communications, entre autres, c'est Gabriel Hardy que vous avez reçu ici sur vos ondes. Puis je crois que dans son rôle, il est arrivé assez bien dans le rôle.
Il est bien préparé aussi, honnêtement, dans ses interventions.
Donc,
très d'accord.
Donc, oui, puis c'est une découverte, là, on ne le connaissait pas, puis
en effet.
Il est efficace.
Bloc québécois?
Bloc québécois...
Hey, c'est les ennemis, là. Fédéralistes, souverainistes...
Non, ben moi, je m'entends très bien avec plusieurs députés du Bloc. Donc, j'essaie de voir qui s'est démarqué.
Il n'y en a pas vraiment dans la région de Québec.
Je pense que Christine Normandin...
Moi, j'aurais fait le même choix.
Elle est très efficace. C'est elle qui mène souvent à la période des questions. Puis, il faut dire que M. Blanchette n'est pas... On dit que M. Carney n'est pas
mais
souvent...
Mais M. Blanchette n'est pas souvent là?
Rarement.
Ah, ben!
Et donc, ça laisse beaucoup de place à Mme Normandin. Parfait. Puis je pense qu'elle fait bien ça.
Cool. Joël Lightbound, toujours un plaisir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite un bel été en famille. Profitez-en. Je sais que vous travaillez fort, M. Lightbound. Donc, profitez de la période estivale pour recharger les batteries puis passer du bon temps en famille. Ça va vite, les enfants. Ça grandit vite. À 2 ans, on est dans le Terrible 2, puis on cligne des yeux, puis on est rendu à 16 ans au travail.
Aujourd'hui, c'est la fête de mon gars, puis j'allais le porter, puis je me disais, tu sais, toi, t'as 16 et 18. Je me dis, il faut vraiment que tu profites du temps où il te trouve drôle.
Parce que là, moi, je suis dans l'étape où je les gêne. Ouais. Même si je fais de la radio, même si je les coach au
même
hockey,
si t'es vraiment cool, t'as un coton watté de Vancouver.
T'sais. Même si je suis cool comme ça, là, ouais, je suis rendu à l'étape où, tu sais, pas quand j'étais avec mes chums, tu peux garder une distance. Ouais.
Une distanciation paternelle.
Ouais, c'est ça. Donc profitez-en. J'allais là en masse, puis faites des jokes.
Yes. Bon été à tout le monde. Bon été à vos auditeurs.
Merci. Bye. Au revoir, M. Lightband. Après la pause, Mathias, t'as assisté à un scrum du maire Marchand.
Son retour.
C'était son retour de sa mission en Espagne et en Italie. J'imagine, vous avez jasé des dépassements de coûts pour la patinoire réfrigérée du Berger.
Bien sûr, on a parlé de du Berger, Québec International, troisième lien, et également des retards pour les différents autobus du RTC.
Ah, magique. On se claque ça. Après cette courte pause à Boulevard 101, l'émission d'En jase.
Juste dans notre ville, tout ce que vous devez, on en jase.
Je préviens, on jase.
Oh oui, on jase. On a bien du plaisir à jaser avec vous. À chaque midi, de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 101, c'est l'émission d'En jase. Le retour de Gravel va suivre par la suite à 14h avec Denis, Véro et Audrey. On est vendredi à 18h, c'est le Garage Alan qui s'installe pour vous faire vibrer au rythme des meilleurs classic rock de 18h à 20h. N'oubliez pas le Rock and Chill. Eh bien oui, les samedis et dimanches de 7h à 10h avec Audrey Pinchot. Émission numéro 1 dans le marché de Québec la fin de semaine. Le Boulevard du Rock avec Dan et Colosse les samedis et dimanches de 10h à 15h. Et de 15h à 17h, c'est maintenant les Colosses du Rock avec notre ami Joe Plamondon qu'on appelle Colosse. Et il nous a écrit, écoute ça, Matt, il nous a dit... C'est complètement malade. John Pedula, le directeur musical, a complètement perdu la tête parce que pour en fin de semaine, j'ai du Beastie Boy, j'ai du No Sleep Till Broken, j'ai du System of a Down, j'ai du Chop Suey, j'ai du Nirvana avec In Bloom, Pantera avec Walk, t'imagines?
Un rendez-vous à pas manquer, dans le fond.
Vous manquez pas ça si vous voulez de la musique qui bûche. Et je vous rappelle, le 24 juin pour la Saint-Jean, émission spéciale de 4 heures avec l'ami Nathan Meyer qui était là avec moi la semaine dernière, le midi, qui va être là pour remplacer Max Larouche dans le Point de Max la semaine prochaine. Donc, émission uniquement sur la musique francophone. On va revenir avec les grandes têtes d'affiche des 20-25 dernières années, les shows qu'il y a eu sur les plaines à la Saint-Jean. Ça va être vraiment super bon. C'est à 18h le 23 juin. C'est en rediffusion le 24 juin, également à 15h, si je ne m'abuse. Mathias, avant qu'on parle du maire Marchand, maudit qu'on s'est ennuyé du maire Marchand. Ben, j'aime ça quand il donne des points de strike.
Tu dis on s'est ennuyé. Moi, j'ai comme été timé avec. Je suis parti en même temps. Fait que
c'est
j'ai pas
vrai.
Eu le temps de m'ennuyer.
Toi, t'as pas eu le temps de t'ennuyer. Non. Moi, je me. T'étais-tu parti avec le maire Marchand?
Non.
T'as-tu payé tes propres dépenses?
Ah, ben si j'étais parti avec, j'aurais payé mes dépenses, par contre.
Merci d'avoir participé en passant en début de show 418-971-101. Je vous dirais que ça a terminé un 60-65%. On a reçu énormément de textos concernant les gens qui disent hey, j'ai pas de problème avec ça. Moi, si sa conjointe vient le rejoindre, et qu'elle paye ses dépenses. Vous m'avez surpris, guys. Vous avez pris mon opinion. Wow!
Oui, mais il y a un point intéressant sur l'image que ça donne. Qu'on soit d'accord ou non,
d'accord.
Quand t'as autant de personnes que ça crée problème, pour l'image, c'est pas l'idéal.
En effet, t'as entièrement raison.
Je veux juste faire un petit tour sur côté circulation avant de passer aux nouvelles parce que c'est très difficile. On est vendredi, on sait, ça commence toujours plus tôt. Puis on est à veille d'un long congé.
Exactement.
20 direction ouest, très difficile entre Taniata et Président Kennedy. Ça risque d'être ça tout l'été avec des travaux, malheureusement. En direction est, à hauteur de Taniata, c'est au rouge également. Je vous transporte sur la rive nord, capitale direction est, entre Pierre-Bertrand et Neuville, c'est au rouge aussi. En direction ouest, c'est entre Laurentienne et Henri Bourassa pour l'instant. Laurentienne, direction sud, léger ralentissement pour prendre capitale. Robert Bourassa, en direction nord, c'est au rouge aussi, à hauteur de boulevard Le Bourgneuf. Henri IV, en direction sud, c'est à hauteur de versant nord, en raison des travaux dans le secteur de Sainte-Foy, que c'est au ralenti en ce moment. Et déjà, malgré le fait qu'on est midi 46, un léger ralentissement qui commence à voir le jour pour prendre Pont-Pierre-Laporte en direction sud, s'il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021, ça se passe par texto.
Sur blvd.fm, vous allez pouvoir écouter les meilleurs moments, notamment l'entrevue qu'on vient d'avoir avec Joël Lightbound, lieutenant du Québec pour le Parti libéral du Canada. Vous allez pouvoir apprendre que le fédéral, ils n'en ont plus d'argent pour le tramway. Donc, le gouvernement du Québec doit rentrer absolument dans l'enveloppe de 7,6 milliards de dollars. 418-971-1021, est-ce que ça vous inquiète? Moi, ça m'inquiète parce que les projets présents présentement que ça, les projets structurants comme ça d'infrastructure finissent toujours par avoir un dépassement de coûts. Donc, ça m'inquiète vraiment savoir qui va payer cette facture-là. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui ou non? 418-971-1021. Puis également, on a vu que... Il n'est pas très à l'aise avec le positionnement de Mark Carney versus la guerre en Iran.
Il ne voulait pas en parler.
Non, c'est ça. Il a bégayé un peu. Il ne voulait pas trop en parler. Tu sais, c'est simple. Joel Lightbound pense comme la majorité des gens. C'est qu'en bout de ligne, on arrive à la conclusion de ces bombardements-là en Iran, puis on n'a rien gagné.
Mais en même temps, Joel Lightbound n'est pas à l'aise avec le positionnement de Mark Carney. Mais selon moi, Mark Carney lui-même n'est pas à l'aise avec son propre positionnement.
Mm-hmm.
Tu sais, on fait ça pour flatter l'ego de Donald Trump.
En plein ça.
Selon moi, il n'y a personne, ni même le premier ministre, qui dit oui, c'est logique comme positionnement.
Ça, t'as raison. T'as entièrement raison. On fait juste ça pour pas toujours être en train de frapper sur Donald Trump.
Je pense que tout le monde est malaisé avec ce positionnement.
En effet. Merci à Audrey qui nous écrit. Je suis d'accord avec toi. Ça m'inquiète. Puis déjà que beaucoup de gens ne veulent pas le tramway. Oui, en effet, ça correspond, là, je crois, à la très, 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 très grande majorité des opinions. En manchette, Mathias, avant qu'on écoute enfin un point de presse de notre maire Marchand.
Après la saga PQ et le Parti libéral, on est maintenant dans une saga Parti conservateur et Parti québécois.
Coudonc, Parti québécois est dans toutes les sagas?
Oui, bien en même temps, c'est qu'on tire du fusil sur un peu tout le monde, mais sans nécessairement avoir de preuves. Là. C'est de plus en plus ça qu'on voit du côté de Paul-Saint-Pierre et Plamondon. C'est en mai dernier, le Parti québécois qui avait déposé une plainte auprès d'Élections Québec, soupçonnant des conservateurs d'avoir caché certaines dépenses électorales durant cette partie. La vérification du rapport de dépenses électorales d'Éric Duhaime pour l'élection partielle dans Arthabasca est maintenant terminée. C'est le chef du parti lui-même qui l'a annoncé et le DGEQ qui l'a confirmé également. Dans un communiqué, Éric Duhaime a donc réclamé des excuses à Paul-Saint-Pierre Plamondon en disant que le chef péquiste l'avait sali gratuitement et qu'il cherchait un gros scandale dans le journal avec son nom et le mot « fraude » pour faire un titre sensationnel. Par contre, le Parti conservateur dit être sorti de l'embarras puis qu'il n'y a pas de problème et tout. Mm-hmm. Mais là, du côté d'Élections de Québec, on a précisé une chose. C'est qu'une enquête demeure possible sur la situation. Okay. Je vous lis concrètement ce que le porte-parole
a dit. C'est intéressant, ça.
Et je le cite, « Nous ne confirmons pas la tenue d'une enquête sur la place publique en faisant référence à la situation d'Éric Duhaime. Mais nous pouvons mentionner que de façon générale, la fin de nos travaux de vérification n'exclut pas la tenue d'une enquête. Ce qui veut dire, les travaux de vérification des dépenses d'Éric Duhaime sont terminés. Tout est beau. Mais ça ne veut pas dire qu'Élections Québec ne va pas faire une enquête sur ces mêmes dépenses.
Autrement dit, on lui a remboursé, fait que à première vue, on est d'accord avec son compte de dépenses, je vais m'exprimer comme ça. Mais compte tenu que des demandes du côté du PQ, ça se pourrait qu'on ait creusé plus loin dans le futur.
Ça se pourrait, mais on n'a pas la confirmation.
Parfait. Merci pour la précision, Mathias.
La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a révélé ce matin, sur Tout un matin diffusé sur les ondes d'ici première, que son conjoint avait été interpellé plusieurs fois, 5 à 6 fois, par des agents cette année au volant de sa voiture. L'objectif de ces interventions-là, c'était juste pour vérifier. Vérifier quoi? On ne sait pas. C'est ces mots qu'elle a utilisés. Tout ça vient dans toute cette situation-là des 16 policiers du SPVM qui ont été visés par une enquête concernant des gestes haineux et raciste au poste de quartier 39 à Montréal-Nord. D'ailleurs, la première ministre qui n'a pas fermé la porte à une enquête publique concernant cette situation-là. Chaque Québécois paiera 2 436 $ en intérêt sur la dette en 2025-2026. Oui, ça s'est élevé, là, 2 436 $. On parle de 1 312 $ pour la portion fédérale de la dette et 1 124 $ par personne pour la portion provinciale. Et je termine avec le président américain Donald Trump qui a évoqué que la pause de 60 jours entre les États-Unis et l'Iran était toujours maintenue, et ce, malgré le fait qu'il y a eu un report du côté des négociations prévues vendredi en Suisse. On a dit notamment sur True Social que l'Iran était fichu puis qu'il allait voir comment se déroulent les 60 jours, mais que l'Iran n'auront aucun argent, même pas 10 sous.
OK.
Mais je vous rappelle que dans l'entente, il y a un 300 milliards qui est prévu pour l'Iran.
Exactement. Il n'y a plus rien qui nous surprend quand ça sort de la bouche de Donald Trump. Au sport, et on va se faire un bon bloc en fin d'émission, mais vous rappelez cette victoire extraordinaire du Canada. 6-0 hier en soccer sur le Qatar. Un tour du chapeau pour Jonathan David qui devient le premier joueur depuis 1966 à faire un tour du chapeau alors que la Coupe du monde est présentée dans son pays.
Ah ouais.
C'est capoté. Le
crime, ça faisait longtemps.
Ben oui.
Mais c'est là que tu vois que c'est... Parce qu'on parle de tour du chapeau, puis dans notre tête, on a comme l'image du hockey.
Mais tour du chapeau, soccer, soccer, c'est là. Rare. Exactement. Puis vraiment. Là, on est chanceux. On a eu deux en trois jours avec Messi qui en avait fait un. La Suisse l'a emporté 4-1 sur la Bosnie-Herzégovine. Mais ce que ça fait, c'est que le Canada a juste besoin d'un match nul contre la Suisse en raison de sa victoire de 6-0 pour finir premier du pool. Le match va être mercredi prochain. Ça va être hallucinant, l'ambiance à Vancouver. Le Mexique l'a emporté 1-0 sur la Corée du Sud. Ça les place très bien dans leur poule à 2-0. Et on a également eu un match nul entre la Tchéquie et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, à surveiller, c'est le match à 15h alors que les États-Unis vont affronter l'Australie, deux équipes qui ont gagné leur premier match. L'Écosse va affronter Morocco à 18h. Savais-tu que l'Écosse a vidé Boston d'alcool? Puis ils jouent encore à Foxborough. Ouais.
T'es-tu sérieux?
Les bars n'avaient plus d'alcool. Les Écossais ont bu la ville de Boston.
Hey!
Ouais!
C'est donc ben
c'est
bon.
Ça. C'est quand on parle de retombées économiques en Coupe du monde, les Écossais ont bu Boston.
Tu sais, de un, fallait que tu ailles assez d'Écossais qui se soient déplacés.
Ouais.
De base, ça, c'est exceptionnel. Le nombre de personnes qui se déplacent de leur pays pour venir ici voir la Coupe du monde, c'est
fou. Écoute, je le répète, là, il y avait un match Côte d'Ivoire contre Équateur à Philadelphie, puis il y avait 74 000 personnes. Tous les bains, il y avait une paire de fesses dedans.
Mais une fois que tu as amené le monde ici... Même si le nombre est impressionnant, faut que tu boives en titi pour vider d'alcool la ville de Boston.
Ouais,
on parle pas d'un village.
Non. Boston, la Sainte-Pat, les Irlandais, l'Écosse a bu Boston. Brésil-Haïti à 20h30, ça va être un duel très émotif, là, même si le Brésil devrait battre quand même assez facilement l'Haïti. Je t'explique pourquoi. Mon frère a déjà été en Haïti un été lors d'une Coupe du monde. C'est tous des partisans du Brésil, vu que l'Haïti avait jamais été bon en soccer. Fait que là, c'est comme si le petit frère affronte le grand frère. C'est à 20h30.
Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir le Brésil. Ça s'est pas super bien passé
match
pour
nul
eux
au premier match.
Dans le premier match.
C'est ça. Et ça termine avec deux équipes qui ont perdu leur premier match, la Turquie contre le Paraguay, à 23h. Alors, continuez à suivre la Coupe du monde. C'est tellement un beau spectacle. Je vous le dis... Laissez vos préjugés de côté. Ah, le soccer, c'est juste des fakeurs, puis il n'y a jamais de but. Ah non, c'est vraiment un sport où il y a énormément d'habilité.
Jusqu'à 14h.
À Boulevard 101 et à l'émission Nangeuse, vous le savez, on adore parler de l'actualité qui vous touche, donc de l'actualité municipale. Puis ça tombe bien, parce que vous avez deux gars qui aiment ça, l'actualité municipale, avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. Deux gars qui aiment ça aller sur le terrain pour sniffer. Et Mathias, t'es revenu de vacances en même temps que le maire. T'étais pas avec le maire, on le dit tout de suite.
On le précise.
T'étais avec ta famille. Et là, ben le maire a donné un point de presse impromptu, ce qu'on appelle un scrum. Il y avait quand même plusieurs sujets à discuter.
Ah ben ça faisait 12 jours qu'il était pas là. Il est revenu hier soir, donc les sujets s'étaient accumulés. On a quand même parlé de sujets très récents. Là. Mm-hmm. Tout d'abord, patinoire du Berger, c'était rapporté dans les différents journaux.
Ouais, c'est ça, ce quand on parlait des infos. Infrastructure coûte chaud plus cher, là. Puis qu'on dit, hey, le tramway, ça va être 7,6. Ça passe pour une patinoire à 11, on est rendu à 13,4, c'est ça, je comprends?
Exactement. C'est le Journal de Québec ce matin qui nous rapportait que c'est une augmentation de 2,4 millions par rapport au coût prévu initialement, ce qui est quand même une augmentation considérable, là, sur un budget de 11 millions. Le maire Marchand s'est défendu aujourd'hui en indiquant que c'est seulement un 600 000 supplémentaire en réalité. Je vous laisse écouter ses explications.
L'appel d'offres est sorti 600 000 au-dessus. Donc ça, il faut le dire, c'est vrai, il est sorti 600 000 au-dessus de ce qu'on pensait. Mais pour le reste du 2,4, c'est des choix que nous avons faits, vous allez voir le lien que je fais avec le tramway, c'est des choix que nous avons faits par rapport aux besoins du Berger-les-Saules. On veut bien servir du Berger-les-Saules. Il y avait un manque criant, notamment d'espace, pour que les gens puissent à la fois avoir des espaces multifonctionnels. Donc on va avoir un centre qui n'est pas du tout l'équivalent de ce qu'on a dans Saint-Roch pour la patinoire réfrigérée. Puis dans Bon-Passard, il n'y en avait pas de centre comme ça. Mais on voulait servir les gens du Berger-les-Saules, fait qu'on a augmenté la capacité du centre pour répondre à différents besoins.
Ouais, moi, là, honnêtement, dans le temps où on est, où justement, il va falloir rénover nos infrastructures à grands coups de milliards, je pense qu'on n'est pas dans un temps à dire « Ouais, on va ajouter ça. Ouais, on va ajouter ça, puis à faire monter la facture. »
Puis peu importe la façon que tu dis puis la façon que tu l'apportes, c'est 2,4 millions.
C'est ça, t'es quand même que tu me dis, ouais, mais là, c'est 2,4, mais non, c'est juste 600 000 parce qu'il faut que tu comprennes qu'on a ajouté des affaires. Ouais, mais tes affaires que t'as ajoutées, si t'es pas prévu au début, c'est que c'est sûrement t'es du petit surplus, du petit hype que tu veux de plus. Sinon, t'as fait un Jonathan Julien de toi-même, c'est que t'as oublié un parking dans une centrale de police.
Mais non, c'est ça.
T'sais, fait que
on
c'est
veut
ça.
Mieux donner plus de services à la population, mais en même temps, ça a un coût, puis ben, c'est 2,4 millions de plus.
Exactement, puis là, on est rendu qu'on disait, on va taxer les citoyens 1% de plus, puis le gouvernement va en mettre 3%, puis comme ça, on va repayer nos infrastructures en eau qui sont déficientes. Mais ben, il faut regarder la colonne des dépenses aussi. Pis ça, je trouve que c'est un bel exemple. Même si juste 2,4 millions, je trouve que c'est un bel exemple de dépenses additionnelles qui ne devraient pas être là dans le budget.
Qu'on aurait pu éviter. Qu'on aurait pu éviter. Qui ne sont pas nécessairement prioritaires au vu des infrastructures actuelles.
Exactement. Mon père disait, c'est avec des 30 sous qu'on fait des piastres, c'est avec des piastres qu'on fait des 100 piastres, c'est avec des 100 piastres qu'on fait des 1000 piastres. Ben, c'est avec des 2,4 millions qu'on va faire des milliards.
Puis d'ailleurs, je veux revenir sur ça parce qu'il a abordé, j'ai pas nécessairement sorti d'extrait, mais le maire a sous-entendu que c'est une gaffe justement d'estimer les coûts trop tôt avant que les projets soient ficelés. En gros, ce qu'il disait, c'est on donne un montant préliminaire, mais on sait pas exactement c'est quoi le projet, justement, surtout en faisant référence à
la patinoire.
Mais
ça, c'est la problématique de faire une annonce pour faire une annonce. Les politiciens veulent tellement annoncer des affaires qu'ils annoncent des affaires prématurées. Puis là, après ça, on dit qu'ils dépassent les coûts. Donc, à ce moment-là, faites l'annonce une fois que vous êtes sûr à 100 % du coût. Puis là, on vous jugera à savoir si c'est nécessaire, si c'est le bon coût, au lieu de vous juger sur des dépassements de coûts.
Je vous parle de Québec International. Dans son rapport d'audit sur l'année 2025 publié mercredi, le vérificateur général de la Ville de Québec a critiqué le financement que la Ville a envers Québec International. On a noté notamment, entre autres, 3,38 millions de dollars qu'on aurait versé en trop par rapport à ce que la politique de financement de la Ville de Québec permettait de faire en réalité. Pour le maire Marchand, c'est pas vraiment des sommes versées en trop, selon lui.
Ben, je sais pas ce qu'il a dit. Je n'étais pas à la conférence de presse, puis je ne l'ai pas réécouté honnêtement. Mais quand j'ai lu son rapport, il dit pas versées en trop. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a des sommes qui ont été versées qui sont pas en lien avec les processus exacts que nous avions. Donc, il y a des sommes pour lesquelles nous avons décidé, et on l'assume, de soutenir Québec International parce qu'ils sont importants, parce que dans l'attraction de talents, parce qu'ils amènent à Québec, sont importants, de les soutenir pour aller réaliser ces missions-là.
Ça, ça me fait rire, parce que dans l'attraction de Québec, dans ce qu'ils amènent, c'est important. Chiffre-le. S'ils sont si importants que ça. Puis d'un, oui, c'est de l'argent trop, là, t'sais, on a crossoyé le système, là. Ça marche, ça rentrait pas dans la subvention, fait que on s'est rencontrés en catimini, puis on a dit, hey, on va vous le donner, l'argent. Fait que,
non, mais c'est Jeff, c'est pas de l'argent versé en trop. C'est d'argent versé en trop par rapport à ce que notre politique de financement nous permettait de faire. C'est pas pareil.
Non, mais là, si ça rentre pas dans ta politique de financement, c'est que ça n'a pas lieu d'être. Un point, c'est tout. C'est encore un autre exemple de gravy. On ajoute, puis c'est encore un autre exemple de on n'est pas capable de quantifier l'apport de Québec International. C'est normal. Québec International, je le dis, t'sais, en toute franchise puis en tout respect, on pèle le nuage de on va attirer des candidatures. Mais quand est-ce qu'on attire ces candidatures-là? Sont où? Sont comment? Sont quoi? On ne sait jamais.
Dans le rapport du vérificateur général, on ciblait aussi l'année 2024 qu'on a fait une révision des subventions qu'on a octroyées à Québec International, puis on a retiré 422 000. Au moment de cette révision-là, notamment en raison de billets de golf pour des fondations puis tout qu'on a jugé qui n'étaient pas admissibles.
Ça attire le monde, ça, des billets de golf.
Ben oui.
Ça attire vraiment beaucoup d'employés. Là, c'est 3,38 millions.
Ouais,
j'imagine que là, le maire, en maire responsable, va dire, ben là, je vais aller voir c'est quoi qu'on a dépensé.
Ben c'est ça, le vérificateur général, c'était dans ses recommandations de dire, retourner jusqu'en 2019 pour analyser des subventions et demander des remboursements en cas de mauvaise utilisation. Le maire Marchand a dit ne pas vraiment prévoir faire cet exercice-là.
Non. La Ville fait ce travail-là. On n'est pas du tout dans la même histoire que Destination Québec City. Là. Pas du tout, du tout, du tout. On a vérifié, puis la preuve que ça fonctionne, c'est qu'il y a des dépenses, justement, qu'on a dit. Ça, pour les processus de la Ville, c'est pas admissible. Ça veut pas dire que ce qu'ils ont fait, c'était pas pertinent. Là. C'est pas ça. Hein? C'est pour nous, ça, on qualifie pas, c'est pas la pertinence. De créer des occasions où on est capable de développer la ville. Québec International, on leur fait confiance pour ça.
OK, ben je vais dire la même chose. J'ai dit pour la patinoire, 2,4 millions. Ça, c'est 3,38 millions de trop. C'est du gravy, c'est du surplus. C'est des choses qu'on décide de se payer nous-mêmes puis qui n'ont pas lieu d'être. Puis la réponse est non. Et ce qui me déçoit, c'est qu'on vient de recevoir un communiqué de l'opposition officielle respect citoyen. Je m'attendais à une réaction immédiate mercredi. C'est pas grave, je vais passer outre. Mais où dans le communiqué, on parle seulement des problématiques du RTC. Le scandale du vérificateur général, c'est pas le RTC, c'est ce 3,38 millions-là versé en catimini par la Ville de Québec à Québec International qui passe dans le budget d'opération de 2 milliards, c'est 500 000 par année, comme si rien n'était, puis qu'on ne sait pas ce qui est fait avec ce 3,38 millions-là. Il est là, le scandale. Vous ne savez pas, chers citoyens qui payez des taxes, qu'est-ce qu'on fait avec ce 3,38 millions-là?
Je passe au prochain sujet. On va faire ça rapidement. Troisième lien d'appel d'intérêt pour un troisième lien à l'Est avec la collaboration du privé qui devrait être lancé
dans les
prochains jours. Est-ce une bonne nouvelle? On va devoir attendre avant de savoir si c'est une bonne nouvelle ou non.
Bien, c'est une bonne nouvelle dans le sens que ça va en écho à ce que Mme Fréchette avait dit. Après ça, la suite, attendons la démonstration. C'est, le gouvernement doit faire la démonstration. Nous, on travaille avec eux pour dire, bien, comment on peut faire pour faire en sorte que ce soit une bonne nouvelle pour nous? Mais maintenant, il est très tôt dans le projet pour dire, est-ce qu'il y a des bénéfices au Québec? On va attendre.
Hey, je vais y aller rapidement, juste avec une chose. On n'a pas attendu le projet avant d'embaucher 150 personnes pour un bureau de projet de tramway qui a servi à rien vu que c'est CDP Infra qui l'a pris. J'arrête là. Vous comprendrez à quel point c'est deux poids, deux mesures.
Je termine avec le RTC, puis ça va être très rapide, Jeff. Tu vas voir, le RTC, on a appris qu'entre 20 et 31% des autobus n'arrivaient pas à l'heure avec le rapport du vérificateur général. Le maire Marchand s'est fait questionner à savoir est-ce qu'on va devoir améliorer la situation. Je vous laisse entendre.
Est-ce que je m'attends à ce qu'on soit capable de faire mieux? Oui.
Ah! Ben oui! Ça, là-dessus, par exemple, bravo à Respect Citoyen, son communiqué de presse, qui demande justement un plan de match et un plan d'action tangible pour le RTC. Ça le prend absolument. Là, on essaye de se cacher au RTC en disant « Ouais, mais là, l'avance, on va peut-être faire en sorte qu'on va permettre un peu plus d'avance. Puis là, ouais, mais si, ouais, mais ça. » Non, 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 non. Faites pas votre job, Grim. 20 % des parcours passent pas au moment où ils devraient passer. Faites votre travail.
Puis le maire Marchand a été clair. Là, j'ai sorti l'extrait
pour la joke. C'était drôle, là. C'était très drôle.
Mais il a quand même été clair sur « On va devoir mieux évaluer la raison des retards. »
Vraiment,
des autobus.
Là. Hey, là, moi, je m'attends à ce qu'on m'arrive avec un plan de match. Puis, là, pas le choix. Là.
Le maire Marchand l'a dit également. Là, ce que le RTC n'avait pas nécessairement
dit. Non, le RTC n'avait pas dit ça. Là. C'était on prend acte des recommandations. Ouais, mais maintenant que tu sais que t'es poche à 20 % du temps, là, ben là, moi, je veux voir ton plan d'amélioration. Surtout quand tu es en déficit de 132 millions de dollars accumulés. Surtout quand tu es en déficit d'à peu près 40 millions de dollars cette année.
Ça devrait être ça le but du rapport du VG, prendre des recommandations puis mettre un plan d'action clair qui va être établi.
Exactement. Courte pause. Roger Ferland vient nous parler par la suite. On va parler de ces caméras corporelles, Mathias. 90 % de la population en veulent pour les policiers. On va revenir aussi sur la situation à Montréal-Nord avec la dernière sortie publique de Soraya Martinez-Ferrada. Et on va aussi parler de cet informateur qui a permis de faire arrêter Pic Turmel. Mais Colin, il faut qu'il y ait en cours pour se faire payer. Assez problématique.
Autonomie combinée allant jusqu'à 962 km. Mais aujourd'hui, vous reprenez la routine en comptant sur une autonomie électrique de 72 km. La Prius hybride branchable s'adapte à votre rythme. C'est l'heure de conduire la vôtre. C'est l'heure Toyota. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 8000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Le point de Max.
Oh que oui, c'est Max. Chaque jour de semaine, 10h, on suit l'évolution des gros dossiers d'actualité du jour. On jase de sport, puis on a du fun. Viens faire un tour.
Le point de Max.
Bonjour, c'est André de Lebeau Vitres d'Auto. Votre horaire est déjà bien rempli et en plus, vous avez un bris dans votre pare-brise. Laissez Lebeau régler ça pour vous. Nos experts réparent votre pare-brise en moins d'une heure sans jamais compromettre la qualité. Le meilleur dans tout ça, la réparation est gratuite si vous êtes assuré. Et pendant que vous êtes là, on peut même installer vos nouveaux essuie-glaces. N'attendez pas, prenez rendez-vous dès maintenant sur lebeau.ca. Détails et conditions sur lebeau.ca.
Bonjour, ici Carole. Comme je sais plus comment vous le dire, je vais vous faire un dessin. Une image vaut mille mots qui disent. Un gros feu de rebut avec un bidon d'essence. Là-dessus, tiens, un beau gros X. Un feu de camp pas éteint, quinte-toi, on le barre. Un mégot de cigarette dans le bois, tu le vois? Ben un gros X là-dessus aussi.
Excuse Carole, justement, on le voit pas parce qu'on est à la radio.
T'es-tu sérieux, là? Regarde, c'est simple. Évitons les feux évitables. J'espère que c'est clair.
Un message de la SOPFEU avec la participation financière du gouvernement du Québec.
Chez Davie, chaque soudure fait partie de quelque chose de monumental. On recrute plus de 100 soudeurs monteurs à Lévis dès maintenant. Jusqu'à 37,11 $ et heures supplémentaires payées en temps double. Applique maintenant au davie.ca. On t'attend.
Boulevard 102.1. Vous carburez au défi et vous voulez que vos efforts paient vraiment? Week-end 91.9 et Boulevard 102.1 recherchent un représentant pour faire grandir sa force de vente. Ici, vous vendez plus qu'un produit. Vous proposez une plateforme forte avec un réel impact pour vos clients et pour votre carrière. Leclerc Communication est le radiodiffuseur numéro 1 à Québec. Ici, il y a de l'espace pour performer, bâtir, convaincre et gagner. Votre mission? Développer des relations solides et accompagner vos clients jusqu'à la mise en onde de vos publicités. Prêt à relever le défi? Postulez dès maintenant au carrière.fm.
C'est l'événement L'Avenir commence maintenant de Hyundai en célébration à la Coupe du monde de soccer. Et l'action ne sera pas juste sur le terrain, mais aussi en concession. Louez un Tucson Preferred 2020.
Il est présentement 13h10. Je vous le rappelle, à la météo, présentement, ça tient. On est chanceux. Il était censé avoir beaucoup plus de pluie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'annonce pour la fin de la journée? On dit que ça va être nuageux avec probabilité d'averse à 60%. Pour demain, c'est généralement nuageux avec 60% également de probabilité d'averse. Et pour dimanche, c'est la même chose. Fait que, tiens, me trompe pas en faisant la météo. Nuageux, 60% de possibilité d'averse. Aujourd'hui, samedi, dimanche, c'est aussi simple que ça. Mathias, à la circulation?
Oui, c'est vendredi, donc ça commence déjà à être compliqué sur l'heure du midi 20, direction ouest, notamment en raison des travaux également entre Taniata et Président Kennedy, c'est au rouge. En direction est, c'est présentement entre Taniata, puis ça remonte jusqu'à Avenue des Églises. Donc, c'est assez difficile sur la 20 en général. Je transporte sur la rive nord Henri IV en direction sud. C'est à hauteur de versant nord présentement qui c'est au ralenti. Ça remonte en ce moment jusqu'à boulevard Wilfrid Hamel. Capitale en direction est, c'est à hauteur de Robert Bourassa. Laurentienne en direction sud, l'accès à Capitale, léger ralentissement dans le secteur. Et déjà, un petit ralentissement sur Duplessis en direction sud pour accéder au pont. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, ça se passe par texto.
Mathias, on attendait avec impatience le verdict concernant cette gardienne d'enfants. Un décès d'un poupon, si je me rappelle bien, quand même pas âgé d'un an, et qu'on avait réussi à amener en cours en raison d'une opération Mr. Big, où elle avait admis avoir justement brutalisé l'enfant. Le verdict est tombé.
Oui, on parle de la gardienne Diana Torres Acosta. C'est en juillet 2019 qu'elle avait secoué un jeune enfant, une fillette de 13 mois à peine, ce qui avait causé des blessures cérébrales chez l'enfant qui a mené par la suite à sa mort. Eh bien, il y a eu le procès qui a finalement été terminé aujourd'hui. Elle a bel et bien commis un homicide involontaire. C'est le verdict qui vient tout juste de tomber.
Merci beaucoup, Mathias Turcotte. Parlant de dossiers judiciaires et dossiers policiers, on va rejoindre notre excellent chroniqueur, ex-enquêteur au SPVQ et enseignant technique policière au Cégep Garneau, Roger Ferland. Roger, comment vas-tu?
Ça va bien? Bonjour, messieurs. Ça va très bien, même.
Roger, est-ce qu'il faut mieux protéger nos sources parce que le plus grand criminel au Québec, Dave Picturmel, a été arrêté en Italie parce que quelqu'un nous a dit « Hey, Picturmel, il se tient là. » On lui devait 250 000 piastres, mais là, ce gars-là ou cette fille-là, on ne sait pas c'est qui, doit aller en cour pour toucher à son argent. Puis ce que je comprends, c'est que cette source-là n'est pas tant protégée. Ça me surprend ce qui se produit à l'heure actuelle. Toi, Roger, comment tu vois ça?
Bien, vois-tu, il y a deux choses dans la question que tu m'apportes là. La protection des sources, c'est le plus grand privilège, ça. La Cour suprême a même tranché. Tu te souviens, dans les cas des journalistes, ils sont allés jusqu'à la Cour suprême.
C'est vrai, tu as raison.
Les sources, c'est protégé. S'il n'y a pas des lanceurs d'alerte, il n'y a pas des sources, tu n'arriveras pas à avancer dans beaucoup de domaines, puis on n'arrivera pas à avoir l'équilibre qu'on a là dans notre société. Par contre, après, le paiement de la prime, c'est souvent fait par une autre boîte pour nous, ça. Qui va payer la prime? Comment ça roule? Puis ça, c'est toujours fait en fonction de beaucoup de critères d'évaluation. Qu'est-ce que ça a permis de sauver comme temps de travail, la précision de l'informateur, ces choses-là. Alors, nous, c'est une règle d'or. Quand tu travailles avec des sources, j'ai passé la fin de ma carrière à faire ça. Tu ne promets rien, tu n'avances rien, mais indirectement, tu travailles un petit peu pour eux pour essayer d'avoir le meilleur, le maximum qu'il y a. Mais quand tu t'engages envers quelqu'un à dire « il y a une prime de tel montant de dollars qui va être versée tantôt », ben je trouve ça extrêmement décevant s'il faut que la personne se rende à la cour pour faire reconnaître son action et son intervention là-dedans. Est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas seule à faire le travail? Est-ce qu'il y avait d'autres sources? Là, vois-tu, il y a plusieurs questions, ça va être très délicat. Il faut que ça se passe à huis clos, mais c'est très mauvais pour notre, je dirais, pour le travail d'équipe des enquêteurs avec les collaborateurs de la justice.
Puis est-ce que ça se passe comme dans les films, c'est-à-dire j'ai donné l'information, on arrête Picturmel, puis après ça, on me crée un faux passeport, on m'envoie dans un pays, dans un endroit où jamais personne ne va me retrouver?
Non, donc vraiment pas, hein, Jeff. Dans les films, ça va bien, c'est facile. Là.
Ben c'est ça. Dans la mais là, vie... ils finissent toujours par le retrouver quand même, puis ça fait le film d'action, là, mais bon.
Oui, c'est ça. Non, non, dans la vraie vie, là, quand tu vas à la protection, il y a une boîte qui s'appelle la boîte de protection des témoins. Quand tu vas là, ben c'est pas tout le monde qui peut le faire. La Sûreté du Québec est responsable de ce programme-là pour nous, les municipalités. SPVM a une partie de pouvoir également qu'elle peut faire toute seule, mais c'est toujours avec une entente avec l'État à la fin. Fait que quand il y a un changement de passeport, changement d'identité, tout ça, c'est possible. J'ai collaboré avec des individus, moi, là, dans le passé, que c'est des choses qu'on leur a faites. Là. Mais c'est souvent des ententes qui sont faites dans un moment calme avant que tu fasses toute ton intervention. Tu dirais, bien, regardez, c'est comme une négociation. Moi, je peux vous aider, je peux vous donner ça. Qu'est-ce que vous m'offrez en retour? Alors, souvent, c'est là que des fois, on accepte la collaboration ou des fois, on refuse la collaboration de certaines personnes parce que ça va trop engager de sous et d'obligations envers l'État. La personne a 3 enfants, elle est mariée, elle a un job, une business. Mm-hmm. Tu sais, ça va être énorme comme dépense que ça va occasionner versus ce que tu vas sauver. Mais c'est toujours un écupolant. Fait que c'est pour ça qu'il y a des comités indépendants qui s'occupent de ça, qui valident ça.
La collaboration,
là, j'aime pas ça, par exemple.
On refuse la collaboration.
Roger, autre dossier, c'est celui des caméras corporelles du côté des agents de police. La population s'est dit en faveur à 90%. On a parlé avec le nouveau chef de police du SPVQ, Dominique Gaudreau, cette semaine. C'est disponible sur le blvd.fm. On en a parlé dans Marceau le matin. Lui, il dit « J'ai commencé avec ça, des caméras dans mon char, sur des cassettes VHS à Val-Bélair dans le temps. » Il dit « Je trouve que c'est intéressant, mais en même temps, il y a des angles qu'on verra pas, puis là, ça peut amener des problématiques à certains policiers. » Donc, il dit « J'aimerais mieux qu'on évalue la situation plus largement. » Est-ce que tu te situes du côté du chef ou du côté de la population qui dit « Go, 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 on en met? »
Ben, je suis des deux bords. Je veux pas avoir l'air d'un oui après-midi en parlant.
Ben, c'est correct que t'es dans la CAQ de base, c'est un oui.
C'est ça. Je vais pas te dire où est-ce que je vote, là. Non. Faut comprendre, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'enjeux, Jeff, dans ça. Bon, la première affaire, on pensait qu'on serait... Moi, aujourd'hui, en 2026, je travaillerais très bien avec une caméra corporelle.
Oui.
Parce que, oui, tu entendrais peut-être à l'occasion un blasphème ou peut-être un petit à gueule à l'occasion à quelqu'un, mais je serais capable de le justifier parce que tu aurais le contexte du début, ton contexte de la fin, puis tu aurais tout ça au complet, puis tu aurais une transparence globale. Puis à la fin, tu verrais vraiment ce qu'il y a l'enjeu, c'est... Fait que... Tu sauveras du temps à la cour, tu sauveras du temps dans l'interprétation. Tu sais, une des grandes difficultés pour le policier, regarde, je m'essaye en ce moment de le traduire dans un livre. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Enquête, de base. Là. Puis juste pour.
Roger, je veux avoir un des premiers livres en passant.
Je t'arrangerai ça, mon cher. Mais la grande difficulté pour un policier, c'est d'écrire son rapport, la perception que tu as eue. Puis ça, souvent, c'est des juges qui me l'ont expliqué. Ils disent Monsieur Ferland, faites-nous voir ça comme un film. Montrez-nous ce qui s'est passé. Mais pas juste votre action. On veut comprendre le concept, on veut comprendre le contexte. Mettez-nous ça en perspective, puis on va se faire une idée dans l'image de toutes les autres informations qui apparaissent. Alors, c'est sûr que les caméras corporelles, c'est un gros plus, puis tout le monde en veut. La seule affaire, les mettre en action partout, là, tu tombes vie privée, vie publique. À quel moment tu vas tomber? Tu commences une violence conjugale, tu vas arrêter le type, mais là, tu as les enfants à côté, tu as le restant. Tu fermes-tu la caméra, tu rouvres la caméra? Alors, il va falloir qu'on balise les moments où on s'en sert. Il va falloir qu'on balise vraiment des bonnes directives là-dessus, à quel moment on les prend, à quel moment on les prend pas. Puis, il y a tout l'enjeu de coût. Là, présentement, il y a une crise. Fait que là, tout le monde la veut, la caméra. Mais il ne faut pas qu'on mette ce budget-là puis qu'on enlève le budget des interventions policières en ce moment pour dire, OK, on prend le même budget pour le pitch-là. Je peux te dire qu'on n'aura rien gagné en ce moment.
Non, c'est ça.
En ce moment, ça demande de la transparence. ça demande... Puis la caméra va t'en offrir une, c'est clair, mais il y a un enjeu de stockage des données. On veut-tu faire un deuxième, ça clique avec ça? J'en veux pas, moi, là, de, avec qui on fait affaire là, comme information? Là, qui va, quel genre de caméra tu prends? Puis tout le volet encadrement méthode. Au final, ça va être un plus, je suis convaincu, tout le monde en veut. La seule chose, puis regarde, on l'a vu dans les interrogatoires vidéo, les juges ne reconnaissaient plus qu'un aveu pouvait être reçu s'il n'était pas filmé maintenant.
Ouais.
Puis là, on est rendu là, puis on a des aveux quand même. On ne casse plus les gars à l'interrogatoire, on les fait ouvrir. Fait que tout ça a changé aussi. Là,
non, c'est ça, c'est juste de bien le baliser. Je suis très d'accord avec toi. On termine avec la situation à Montréal-Nord, Roger. Bon, deux nouveautés dans cette saga-là qu'on connaît depuis la fin de semaine dernière. La première, c'est que les policiers de nationalités différentes ont écrit au chef de police en disant « On a des craintes parce que là, il y a des boys à l'intérieur qui essayent de trouver qui a ouvert sa grande trappe. Donc, on a des craintes pour notre sécurité. » Et la deuxième chose, c'est la mairesse Soraya Martinez-Ferrada qui dit « Hey, moi, mon mari est de couleur, là, je vais prendre ce terme-là, là, est de couleur noire. Oui. » Puis il s'est fait arrêter 6 fois cette année à Montréal pour vérification, je me pose la question pourquoi ça y est arrivé aussi souvent. C'est quand même assez perturbant ce qu'on entend depuis une semaine, Roger.
Oh oui, c'est perturbant ce qu'on entend depuis une semaine. Puis c'est un fait que je suis capable de comprendre les gens des communautés culturelles qui sont policiers. C'est dur pour eux en ce moment parce que même nos étudiants en ce moment sur les bancs d'école, là, quand le chum apprennent, puis ils sont à l'école, puis on est à Québec, là, qui apprennent qu'ils veulent devenir policiers, ils se font dire pourquoi tu t'en vas là, tu vas nous trahir. Tu vas devenir un traître.
Ouais.
Et puis, il y en a, j'en ai deux
fait
sur
là, 5. Quand tu décides de le faire, tu as déjà un courage de le faire.
Ben oui, c'est ça. Là, attendons, qui a dénoncé, je ne le sais pas, à Montréal, je ne suis pas sûr que c'est juste les policiers issus de l'immigration. Mm-hmm. Là. Je suis convaincu qu'il y a un paquet de gens, regarde, tu m'aurais compté ça, là, puis c'est inconcevable, Jeff, là, que tu arraches des cheveux par accident lors d'une arrestation.
Ah ben non, chose, ben, c'est ça, que mais que tu le fasses volontairement.
Hey, non, on changera de braquette. C'est sûr que, vois-tu, la mairesse de Montréal, ce qu'elle raconte pour son mari, ça se peut qu'en ce moment, les policiers, vérifient systématiquement tout ce qui se promène. Ben ça, ça n'a pas sa raison d'être. Mm-hmm. Je pense que trouve-toi des motifs, trouve-en des vrais. On n'a pas besoin du 636 pour l'interception aléatoire pour intercepter quelqu'un. Là. J'en ai jamais eu besoin, je n'ai jamais écrit ça dans aucun de mes rapports. Mais j'ai toujours pris le temps d'observer, savoir des choses. Des fois, l'heure à laquelle tu circules, c'est un motif. Le véhicule dans lequel tu te trouves, c'est un motif. Mais il faut que tu sois capable d'articuler puis donner le contexte. C'est pour ça que si tu avais tout le contexte, puis tu avais une caméra corporelle, puis que tu raconterais à la caméra, « OK, je vois ça, regardez ce qui se passe. Parfait, je vais intercepter la personne. » Très souvent, les vitres sont teintées, tu ne sais même pas qui il y a dans l'auto, là, puis la couleur.
Non, t'sais. C'est ça.
Arrêtons, là, tu sais. Souvent, les véhicules, en plus, qu'on vérifie. Fait que c'est pour ça. Mais regarde, je pense qu'il faut qu'on aille au bout des choses dans ce qui s'est passé à Montréal, parce que ça jette un discrédit sur tout le monde en ce moment. Je peux te dire, j'ai parlé avec des amis en ce moment, puis il va falloir qu'on se réadapte, là. Ce qu'on pensait qui était toute une recette blanc ou noir, bien, excusez-moi, on est rendu en 2026, là. Puis c'est des teintes de gris partout que ça prend. Puis de s'adapter, non juste dans la police, mais dans le milieu social en ce moment, dans le milieu culturel, je pense que les gens des minorités visibles en auraient beaucoup à nous apprendre. Bien, si on veut le vrai vivre ensemble, il va falloir qu'on se métisse un peu puis qu'on change ça un petit peu puis qu'on améliore notre situation. Mais là, la crise de la police là, est en train peut-être de montrer qu'on a peut-être un phénomène qu'on devrait adapter un peu plus large.
Tellement d'accord avec toi, Roger Ferland. Je te souhaite un excellent week-end. Je te remercie d'avoir participé à l'émission On en jase. Puis on se reparle sûrement la semaine prochaine.
Certainement. Bonne journée aux auditeurs.
Salut, Roger. Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, maintenant enseignant technique policière au cégep Garneau. Toujours très pertinent d'avoir son point de vue. Tu te demandes-tu comment les partis politiques vont réussir à s'en sortir pour la campagne électorale?
Comment ils vont...
Ouais, tu sais, là, on parlait qu'Emmanuel Latraverse, tantôt, elle dit qu'il va y avoir des guerres régionales à travers une campagne de masse. Ça va être vraiment particulier comme campagne.
Ben, ça va être bizarre, surtout que dans les dernières semaines, j'ai l'impression que... Puis malheureusement, c'est souvent trop le cas en politique, j'ai l'impression. Mais que dans les dernières semaines, c'est même pas la question de qui fait le mieux, mais c'est qui fait le moins pire.
Ouais, c'est
ça. Tout le monde se plante un après l'autre.
En effet, puis il y a une grande... Présentement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Il y a beaucoup d'électeurs indécis. Donc, ça va être très intéressant. On fait une courte pause. Bon, on parle de ça avec Lambert de Rainville immédiatement. Alors on en jase sur Boulevard 102.
J'ai toujours imaginé cette phase-là de ma vie comme quelque chose
de profondément romantique.
Oui, puis de beaux moments, puis de passer à l'électrique avec le Ford Mustang Mach-E 2026 chez Desjardins Autocollection.
Traction intégrale, écran de 15,5 pouces, technologie d'aide à la conduite Ford Copilote 360 et autonomie électrisante. Vraiment, tout y est.
Et le plus impressionnant, louez-le à seulement 125 $ par semaine avec 0 $ d'acompte. Profitez aussi des économies d'essence et d'entretien.
Seulement 125 $ par semaine chez Desjardins Autocollection.
Bourbeau, pour que ce soit beau.
Chez Gérard Bourbeau et fils, le savoir-faire et les conseils avisés, ça se cultive avec le temps. Et chez nous, la passion pousse depuis 88 ans. Votre centre jardin Gérard Bourbeau et fils, c'est le plus grand choix de végétaux à Québec. Que vous soyez jardinier amateur ou producteur, vous trouverez tout pour réussir vos projets. Une pépinière bien garnie avec rosiers, plantes grimpantes, arbres fruitiers et plus de 1000 variétés de vivaces. Sur la première avenue à Charlebourg, gérardbourbeau.com.
Pour que ce soit beau.
Plongez dans 888casino.net. Parce que c'est fait pour jouer. Cet été, pendant que vous profitez du soccer, découvrez une autre forme de divertissement sur 888casino.net. C'est tout simplement fait pour jouer. Wouhou! 888casino.net. Fait pour jouer. 19 ans et plus, jeu gratuit seulement. Veuillez jouer de façon responsable.
Prêt pour les vacances? Chez La Tulipe, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Vêtements, chaussures, équipements de plein air. Et avec la fête des pères qui approche, pensez offrir la carte cadeau ou profiter de nos rabais en circulaire. La Tulipe, pour l'aventure, au meilleur prix garanti.
Cet été, obtenez-en plus avec la technologie hybride de Mazda. Les Mazda CX-70 et CX-90, disponibles en version hybride ou hybride rechargeable, sont conçus pour offrir confort, performance et économie d'essence. Et obtenez-en encore plus avec la location 24 mois à partir de 0,99% et jusqu'à 2500 $ de boni, incluant le rabais gouvernemental pour les clients admissibles. Faites vite, les Mazda CX-70 et CX-90 vous attendent. Sur approbation de crédit, les conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire Mazda.
Aujourd'hui, obtenez 20 fois les points chez Pharmaprix. Ouvrez l'appli PC Optimum, magasinez, scannez et obtenez 30 % de remise en points. Conditions dans l'appli.
À Boulevard 102. Jusqu'à 14h, on en jase.
Boulevard 102.1.
Il est présentement 13h30, 30 minutes avant que le retour de Gravel s'installe avec Denis, Audrey et Véro. Mathias, avant de passer à Lambert, circulation et quelques manchettes.
Bien sûr, c'est vendredi, ça commence plus tôt. 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy, c'est difficile dans le secteur. 20 direction est, c'est à niveau de Président Kennedy qui s'est au ralenti. Je vous transporte sur la rive nord maintenant, capitale direction est entre Pierre-Bertrand et Boulevard Neuvial. Léger ralentissement dans le secteur. Laurentienne direction sud pour prendre capitale, c'est au rouge également. Henri IV direction sud, hauteur versant nord, ça remonte jusqu'à Wilfrid Hamel. En ce moment, c'est au rouge. Et l'accès au pont, tranquillement, pas vite, le ralentissement s'installe. C'est surtout sur Duplessis jusqu'à maintenant en direction sud. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
En manchette!
Oui, je commence justement en circulation. Juste vous rappeler qu'il y a la démolition de la passerelle Adrien Pouliot qui commence en fin de semaine. Donc, ce qui veut dire que de ce soir à 19h jusqu'au 22 juin à 5h de l'autoroute Laurentienne qui sera fermée en direction sud à partir du boulevard Wilfrid Hamel et en direction nord entre les rues du Prince-Édouard et de la Croix-Rouge. Donc, lorsque vous arrivez dans le secteur de la basse ville, Wilfrid Laurentienne, ça va être fermé pour la fin de semaine complète. Donc, c'est sûr que je vous conseille d'éviter le secteur du centre-ville pour la fin de semaine. Également, on a eu un verdict qui est rentré au cours des dernières minutes. C'est la gardienne de Québec, on parle de Diana Torres-Acosta, qui avait secoué une fillette de 13 mois, ce qui avait causé des blessures cérébrales menant malheureusement à la mort de la fillette en juillet 2019, a été reconnue d'homicide involontaire. La femme de 44 ans qui avait fait des aveux incriminants, notamment lors d'une vaste opération Mr. Big qui s'est déroulée avant son procès. Et je termine avec Christine Fréchette qui a fait l'annonce du côté de Joliette ce matin de deux projets pilotes pour transformer l'accès aux soins et limiter l'engorgement à l'urgence. On parle notamment de salles d'attente virtuelles, ce qui est quand même intéressant, là. Ça va être testé au centre hospitalier régional de Lanaudière. Les patients non prioritaires pourront retourner chez eux en attendant leur prise en charge. Donc, si vous êtes pour attendre 10 heures à l'urgence, à la place d'attendre 10 heures, ben vous allez peut-être faire 8 heures à la maison puis 2 heures à l'urgence. Je ne sais pas comment ça va se traîner.
C'est un beau projet test.
Mais c'est ça, de l'essayer, ça peut être très intéressant. Un deuxième projet pilote qui sera mis à la fois dans Lanaudière et dans la capitale nationale cette fois-ci, visera à réduire le nombre de visites non nécessaires en présentiel. En gros, les patients qu'on va juger non nécessaires de rencontrer en vrai seront redirigés vers une consultation en ligne avec un professionnel. Donc, c'est deux projets pilotes qu'on va mettre en place du côté de Québec.
Très hâte de voir le tout aller, mais c'est, je trouve que c'est une belle initiative. On va rejoindre de ce pas Lambert Drainville pour sa chronique politique. Lambert, c'est en 2022, la campagne était plate parce qu'on savait déjà que la CAQ allait gagner, puis on se demandait juste si le PQ allait survivre. Là, avec le nombre d'électeurs indécis, cette course à trois qui se dessine, ça va être palpitant, pas à peu près.
Ouais, ça va être très... D'abord, bien content de vous retrouver, messieurs.
Ben moi aussi, Lambert, ça fait un bout, merci.
Ça fait un méchant bout.
Félicitations pour ton prix. Tu
oui,
rayonnes partout. On est très fiers. Ouais, très fiers.
C'est vrai. C'est vraiment apprécié. Ça a été beaucoup de travail dans la dernière année, mais c'est une belle tape dans le dos, puis... Honnêtement, ça aurait pu être bien d'autres personnes qui auraient pu gagner ce prix-là. Là. Il y a des beaux créateurs de contenu qui voient le jour au Québec dans les dernières années. C'est vraiment chouette ce qui se passe sur les médias sociaux. Et pour revenir à cette campagne, effectivement, Jeff, la première où on va avoir 5 partis politiques qui ont une chance réelle de faire élire au moins un député, ça va jouer du coude. On a une course à 3 en tête. On a moins d'une personne sur 2 qui dit que son vote est définitif au moment où on se parle. C'est une campagne qui va être très excitante à suivre et qui, comme chaque campagne électorale, peut toujours chavirer sur un rien, sur un point d'inzer.
Ouais. Ah ouais, un point d'inzer à la PKP. Bon, là
à
maintenant.
La PKP.
Ouais, là maintenant, on sait que le PQ loge pour un référendum dans le premier mandat, mais est-ce que leur pleure de banane, c'est pas un point d'inzer, mais c'est plus le comportement de leur chef qui tire à boulet sur tout le monde? Je sais pas quelle mouche l'a piqué dans les dernières semaines.
Ben, c'est un bon point. Je sais pas quel... C'est un gars qui va devoir... En fait, si j'étais dans leur équipe, leur premier défi, ce serait effectivement ça. Tu sais, les gens, essentiellement, au Québec, votent pour le parti ou pour le chef, mais grandement pour la personnalité du chef.
Mm-hmm.
Leur premier défi au PQ, pour moi, ça va être de trouver une façon de garder leur chef discipliné, d'essayer de vraiment ne pas faire de grosses erreurs et le ramener à ce qu'il était dans ses débuts, Jeff. Je ne sais pas si tu te souviens quand Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était un inconnu aux yeux de pratiquement tout le monde.
Ouais.
J'ai même sorti un extrait là, de lui en plein campagne électorale, à mi-campagne en 2022. Puis écoute son ton, les gens qui écoutent, qui ne voient pas l'image, là, on en parlera par après, mais... Disons que c'est un peu plus rafraîchissant. Là.
Exactement. À salut, bonjour, avec son petit polo blanc du PQ, il a l'air tout fin.
Est-ce que votre campagne elle est énergique et inspirante?
Bien, on a eu plusieurs commentaires très positifs sur la manière dont on mène nos enjeux. On s'adresse à l'intelligence des gens, on fait des propositions constructives sur tous les sujets. Il y a même des notes là, qui sont remises dans le Journal de Montréal, par exemple. Et à date, on a plusieurs commentaires positifs. Et c'est la campagne qu'on veut mener, c'est-à-dire une campagne sur l'essentiel, le fait qu'on devrait décider nous-mêmes comme Québécois sur l'avenir du français, sur l'avenir aussi de l'environnement pour les changements climatiques et des choses de base comme la dignité de nos aînés. Donc, on se concentre sur l'essentiel, puis on a des réponses, des propositions qui sont très pertinentes.
Intelligence, une campagne constructive, ouais. On se concentre sur l'essentiel. Ouais, c'est pas mal ce PSPP-là qu'il faut qu'il revienne.
Je pense que c'est... Exactement, puis moi aussi, c'est ce que j'ai noté. Proposition constructive. Quand il est arrivé, c'était comme un vent de fraîcheur. Il n'hésitait pas à saluer les bonnes mesures proposées par les autres partis. Il avait même fait en débat de mémoire en disant que les mesures environnementales de Québec solidaire étaient très solides. T'sais, c'était comme un vent de fraîcheur. Puis ben honnêtement, force est d'admettre qu'il s'est éloigné un petit peu de ce casting-là. Je pense que ce serait une bonne idée de le ramener un peu dans ce sens-là.
Mais selon toi, est-ce que ça pourrait être la notoriété des dernières années qui lui a un peu monté à la tête?
Hey, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question pourquoi, disons, il a changé à ce point-là. Tu remarqueras que l'essentiel, tu sais, souvent ces erreurs là, qu'on parle de ses commentaires au niveau des artistes ou qu'on parle de sa sortie récemment au niveau du lien entre le Parti libéral et le crime organisé qui semblait un petit peu, disons, pas prévu. Ça arrive toujours en fin de session parlementaire, tu sais, quand il est fatigué, c'est éreintant,
c'est vrai.
Il y a des semaines qu'il travaille. Tu sais, une campagne électorale, c'est 35 jours, t'as pas de week-end, t'as pas de break. Puis vu que t'es le premier dans les sondages, ben, tu vas être le parti le plus attaqué. Fait que c'est pour ça que je dis... Il va être fatigué, il va être au bout de la corde. On va tirer l'élastique jusqu'au bout. Il va falloir qu'ils fassent attention au Parti québécois à ménager leur chef. Et en parallèle, au-delà de la question nationale aussi, être capable de montrer que ce parti-là, sur des dossiers comme la santé, comme l'éducation, comme l'économie, sont capables avant... d'être un parti qui propose un référendum, d'être un parti qui est en mesure de bien gouverner.
Deuxième dans les sondages au général, mais troisième chez le vote francophone, on retrouve le Parti libéral du Québec. Moi, j'ai un mot qui me vient en tête, il faut que Charles Milliard gagne de la crédibilité. Puis là, je sais que l'attaque concernant les organisations criminelles, c'était peut-être pas meilleur que PSPP, mais dans son « Ah, on a jusqu'à un an pour agir », les gens veulent quelqu'un qui va diriger, non pas quelqu'un qui... va se faire contrôler par son caucus. Moi, c'est l'impression que j'ai à l'heure actuelle.
Ouais, c'est ça. Il n'arrête pas de dire depuis le début que c'est son parti puis ça va marcher à sa manière. On a l'impression que dans le cas du français, il s'est fait damer le pion une couple de fois par son caucus. Et dans le cas de la mise en demeure qui verra entre toi et moi jamais le jour.
Ben non, jamais.
Politiquement, il s'est fait battre à plat de couture, même si je trouvais que c'était un commentaire qui n'avait pas sa place initialement par PSPP. Une fois que c'est dit, tu réfléchis à tout ça. Je pense pas que c'est une bonne idée de faire une menace de mise en demeure puis de mettre du gaz sur le feu. Donc, va devoir aller au-delà du gars qui s'exprime bien, qui paraît bien, qui a les dents drettes, puis être capable de vraiment proposer des idées crédibles, notamment sur les enjeux identitaires,
ben oui.
Sur le français. On s'en est parlé tellement de fois, Jeff, le français, la protection de la culture, la protection de l'identité québécoise et son plan sur le français qu'il a laissé connaître cette semaine. Bon, de mon point de vue à moi, c'est quelque chose qui ne va pas assez loin, mais ça a été assez bien reçu de ce
en
que
effet.
Je vois à la grandeur du Québec. Fait que c'est un bel exemple de geste où est-ce qu'il est positif là, dans son cas à lui.
Non, en effet, il va falloir qu'il y ait au-delà du sourire. Christine Fréchette,
ouais.
Je dirais que dans les deux dernières semaines, je pense que j'ai rarement vu une politicienne être aussi résiliente. Hey, les claques d'en face n'arrêtent pas. Jean Boulay part, Mathieu Lacombe part. Puis elle continue, elle est droite comme une barre, puis elle s'en va par en avant. J'ai le feeling que ça parle à l'électorat.
On verra. Je trouve ça intéressant que tu l'amènes comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi que ça... faut qu'ils évitent d'abord et avant tout... qu'un narratif négatif s'installe.
Ça
fait
clair.
Quelques semaines que c'est compliqué. Il faut comme un peu fermer le boyau, là. Terminer l'hémorragie et évidemment ben, s'assurer d'avoir des candidatures solides pour justement dire ben, on est encore capable d'être attractif. Et c'est pas juste Mme Fréchette, c'est pas non. Juste le parti de Mme Fréchette. Si vous votez pour la CAQ, ben, vous allez avoir une équipe compétente qui... pourrait composer un conseil des ministres compétent. Et l'autre défi, bien honnêtement, Jeff, c'est juste de trouver une façon d'être complètement ailleurs de ce que M. Legault a offert dans les deux dernières élections. C'était pas un grand campaigner. 2022, il avait déjà la victoire pas mal acquise, puis ça n'a pas été une super bonne campagne, puis il a gagné quand même. Mme Fréchette n'aura pas ce luxe-là et elle va devoir trouver une façon, que ce soit dans les propositions, mais même dans le branding, le slogan, l'énergie, tout ce sur quoi elle a un contrôle, de vraiment marquer une cassure avec François Legault pour que tous les gens au Québec qui se disent « ben moi, la CAQ, là, j'ai bien profond dans le « hum », ben...
On recommence à y penser.
Ben, c'est ça, que ces personnes-là se disent « Ouais, OK, effectivement, je suis pas content de la CAQ, mais c'est plus, c'est visiblement plus la même CAQ que c'était avant. » Fait que ça, c'est sûr que c'est un défi pour moi qui est primordial pour eux, la cassure avec la façon dont fonctionnait M. Legault puis son style en campagne électorale.
On termine avec le PCQ et QS. Pour PCQ, j'ai un mot, gagner en crédibilité. Pour QS, c'est gagner en visibilité.
Exact. PCQ... Écoute, Éric Duhaime doit rentrer à l'Assemblée nationale. Peu importe comment, il faut qu'il fasse élire des gens. Puis si lui ne se fait pas lui-même élire, qu'il soit capable d'aller prendre le siège possiblement de quelqu'un d'autre, un peu à la manière de Pierre Poilievre, mais il doit faire son entrée à l'Assemblée nationale pour une question de crédibilité, comme tu le disais. Mais bien honnêtement, une question de démocratie aussi.
Ben oui.
Ils ont été chercher 13 % en 2022. Ils ont fait élire zéro député. Le Parti libéral avait 1 % à peine de plus qu'eux au niveau des votes, puis ils en ont fait élire 21. Fait qu'il y a un déficit démocratique à ce niveau-là. Il y a des gens présentement qui ne sont pas représentés dans la maison du peuple. Ça, il faut que ça change. Et Québec solidaire, écoute, on s'en est tellement parlé souvent, le départ de Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, ça fait tellement mal au niveau de, oui, la crédibilité, mais la visibilité que ce parti-là est capable d'aller chercher sur les réseaux sociaux. Je faisais un petit tour hier sur les pages des différents partis, puis tous les vidéos les plus regardées sur TikTok de Québec solidaire sont tous des vidéos dans lesquelles Gabriel Nadeau-Dubois parle. Donc, c'est pas juste un départ qui fait mal d'un point de vue politique puis d'un point de vue média traditionnel, mais aussi sur les médias sociaux, ça va être compliqué. Ils vont devoir trouver une façon d'attirer l'attention et d'offrir aussi des propositions. C'est un mot qui en a fait éternuer plusieurs au sein de ce parti-là, mais des propositions plus pragmatiques. Ouais. Rappelle-toi, Jeff, en 2022, la taxe orange, on va taxer les pick-up, on va taxer les camions. Ça avait fait extrêmement mal. Comment tu penses être capable de compétitionner dans un comté comme Rouyn-Noranda si tu proposes de taxer les camions? Ils vont devoir réfléchir à ce genre d'enjeu-là s'ils vont être en mesure de garder ne serait-ce qu'une partie des comtés qu'ils ont, par exemple à Sherbrooke, au centre-ville de Québec, etc. Défi, c'est vraiment attirer l'attention. Jeff, ta prédiction? Mettons, je te demande en terminant.
Ah, écoute, en terminant, ma prédiction, je le dis depuis le début, c'est PQ minoritaire en raison du vote francophone.
Bien, on est à la même place. PQ minoritaire en raison du vote francophone.
Exactement. Alors, puis là, ça va se coltoyer à l'Assemblée nationale, puis des chroniqueurs et des animateurs comme moi et toi, on va juste avoir du bonheur puis du plaisir.
Ouh, ça va être excitant, Jeff. Ça va être tellement excitant.
Oui! Laure Vandrinville, je te souhaite un excellent week-end. Je suis tellement content de te reparler, mon chum.
Ah, moi aussi, les boys. À bientôt.
Salut, à bientôt. Lambert Drainville, suivez-le sur les médias sociaux. Il fait des excellentes chroniques politiques. Courte pause, on parle de Coupe du monde de soccer. Hey, j'entends des Denis Gravel dire « Ah, le soccer, j'aime pas ça. » J'entends des Marceau dire « Ah, le soccer, j'aime pas ça. »
Des Max Arrouge. Dans le fond, c'est juste nous.
Ben, autres. Moi pis toi, Mathias, on aime ça.
RVRES 2026 peut être à vous pour seulement 79 $ par semaine chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi. Aucun comptant, 16 000 km par année avec un taux d'intérêt de 3,49% sur 60 mois. Profitez d'un VUS fiable, économique en essence et protégé par la célèbre garantie 10 ans Mitsubishi. Dépêchez-vous, cette offre est pour un temps limité seulement. Passez dès maintenant chez Québec Mitsubishi et Sainte-Foy Mitsubishi.
Besoin de cèdre pour vos projets extérieurs? Le cèdre de l'Ouest et le cèdre du Québec sont en vedette chez Limaco. Particulier ou entrepreneur, Limaco a un vaste choix de cèdre à très bon prix. Limaco, spécialiste en vente de bois depuis plus de 25 ans. Limaco.ca.
Avant d'appeler le garagiste puis de signer une facture salée, fais un arrêt stratégique chez Pièce
d'Or. Fini jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
OK, on se fait plaisir pour terminer cette émission d'On en jase. C'était hier à Vancouver.
Buchanan avec un tir dévié. Une frappe à la volée! Le voilà son but! Est-ce que ce sera le but de la délivrance pour Jonathan David?
Mathias, Alex, la réponse est oui. Ce fut le but de la délivrance. Tour du chapeau pour Jonathan David. On n'a même pas eu besoin d'utiliser Alphonso Davies. On a clenché le 14-6-0. Puis là, avec un match nul, on finit premier de notre poule. J'aurais jamais pensé que le Canada était rendu là au niveau soccer. Alex Laramé, t'en penses quoi?
Ben, moi, je pense que c'était toute une victoire. Là. C'était la première victoire du Canada à la Coupe du monde. Ça a été fait en éclat. Tu l'as dit, victoire de 6-0. Puis, tu sais, oui, il y a eu les cartons rouges, là, mais Canada avait l'avance, là, 11 contre 11. On dominait le jeu.
Tellement.
Puis je pense que c'est l'évolution du soccer au Canada. Hein. De plus en plus, il y a de plus en plus de jeunes qui participent à ce sport-là. Puis on est rendu en 2026, puis on voit qu'on est une nation qui peut se battre au moins parmi les pays qui sont à la Coupe du Monde. On verra pour la phase éliminatoire, là. Surtout avec la blessure de Koné, qui ça fait ça, c'est une grosse perte.
Oh, mais hein.
C'est notre meilleur milieu offensif. Il y a personne dans l'équipe qui est capable de remplacer les jeux de passe qu'il fait. Parce que oui, on a Jonathan David en avant, on a Larin qui est capable de mettre des buts, mais vraiment comme pur passeur, c'était notre meilleur. Puis là, cette perte-là, elle pourrait faire mal justement dans la phase éliminatoire pour le Canada parce que d'après moi, c'est pas mal sûr là, qu'on va passer à la prochaine étape.
Oui, parce qu'on parle de la performance du Canada, puis on fait bien là, de voir notre équipe canadienne aussi bien jouer que ça.
Aussi dominant.
C'était fantastique hier. Mais je veux noter aussi l'ambiance qu'il y avait à Vancouver.
Oh,
moi,
oui,
je trouvais ça capoté durant le match. Après le quatrième but, je pense, la foule qui commence à scander « We want more. We want more.
Ah, » oui.
On veut plus. C'est 4-0. On est en train de rouler sur le Qatar. Puis la foule, 60 000 personnes qui scandent « On en veut plus. » Je pensais pas voir le Canada être capable d'être aussi uni que ça autour d'un sport qui n'est pas le hockey. Puis je trouve ça quand même beau, même si je suis un gros fan de hockey.
On est rendu une nation de soccer. C'est 200 000 jeunes qui jouent au Québec. C'est deux fois plus qu'au hockey. Là, même au hockey, je pense qu'on est rendu à 90 000. Vraiment, il faut ouvrir nos horizons. C'est un show extraordinaire. Puis, qu'on ait ça au Canada pour les matchs préliminaires. Puis, il va y avoir un match, justement, de ronde de barrage qui va être également au Canada pour le Canada. Ça peut juste donner un élan, Alex.
Ah, ben oui, 100%. Puis, tu sais, on parle du Canada, mais si on regarde au Québec, dernière nouvelle, aux Jeux olympiques, il y avait zéro Québécois qui ont fait l'équipe. Puis là, avec l'équipe canadienne au soccer, on a Crépeau, qui est notre gardien
partant.
On a Koné, qui a été blessé. On a quand même Bombito, là, qui a été blessé, qui est rentré dans le dernier match. Mais lui aussi, habituellement, c'est un partant. Saliba, Chouanière. On a une belle pépinière de talent au Québec qui peuvent aider, justement, l'équipe canadienne. Puis oui, évidemment, si on finit premier de notre groupe, ben là, on a la chance de faire le premier match éliminatoire à Vancouver, encore une fois. Fait que le prochain match contre la Suisse, là, c'est crucial. On n'a même pas besoin de gagner, tu l'as dit, une nulle.
Nul.
Ça ferait amplement le travail. Fait que je pense que c'est peut-être un résultat plus... qu'on peut plus souhaiter, parce qu'une victoire contre la Suisse, là, on va se le dire, ça va être difficile.
Oui, exactement. T'as entièrement raison. Hey, même son trip soccer, je veux juste parler de deux petites nouvelles hockey qui touchent le Canada. La première, Darren Radish, le défenseur du Lightning de Tampa Bay, qui a été, ses droits ont été cédés pour un choix de cinquième ronde aux Maple Leafs de Toronto. À 30 ans, les Leafs vont lui consentir un contrat de 8 ans, 8 millions de dollars par année. Quand tu es une organisation qui veut se tirer dans le pied constamment, tu fais comme les Leafs de Toronto?
Ouais, ben c'est sûr qu'on regarde ce contrat-là, puis ça a comme pas de maudit bon sens de donner 8 ans à un joueur de 30 ans, surtout qu'il y a une bonne saison derrière la cravate, s'est établi dans la Ligue il y a quelques années, comme à 27 ans. Mais ça reste que dans l'immédiat, la saison prochaine, c'est quand même un pas en avant pour les Maple Leafs. Puis moi, je regarde notre division, ça va être la mort. Là. Tous les clubs, pratiquement, essaient de faire les séries. Donc, moi, je trouve qu'on peut regarder ça de deux manières. Oui, on peut se dire, hey, c'est un contrat qui n'a pas d'allure, il va gagner le même montant que Lane Hudson l'année prochaine. Mais en même temps, ça améliore quand même les Leafs à court terme. Mm-hmm. On sait qu'à long terme, ça va être une catastrophe. Donc, moi, je suis un peu entre les deux, là. Je pense que le Canadien va faire les séries l'année prochaine, mais ça va être plus dur que cette année, selon moi, pour le Canadien.
Puis j'ai hâte de voir, à long terme, comme tu as dit, Alex, ça va être un désastre, mais j'ai hâte de voir si à court terme, ça va être si bon que ça aussi, parce que je rappelle que Radish, c'est une seule saison de 70 buts, de 70 points. C'était 37, avant c'était 34. Mais je veux dire, un joueur comme ça, qui a fait sa première saison exceptionnelle à 30 ans, ça se pourrait que l'année prochaine, ça se passe pas bien pour Radish.
Alex Laramie, je te laisse là-dessus. L'émission tire déjà à sa fin. Go Canada, go! De toute façon, on se reparle la semaine prochaine pour le troisième match, mercredi prochain contre la Suisse.
Yes, toujours un plaisir.
Salut Alex, merci. Alex Laramie, chroniqueur sportif pour nous, journaliste au 99.5 Montréal. Mathias, merci pour la belle semaine.
Ça fait plaisir. Merci aux auditeurs. Je suis content de vous retrouver.
Yes, je te souhaite un excellent week-end. On fait des doublés ensemble la semaine prochaine, je crois, autant le matin que le midi.
Oui, matin et midi, on va être ensemble, mon Dieu.
Magnifique. Restez avec nous sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est le retour de Gravel qui s'amène à l'instant.
Bonne fin de semaine.